Bonjour et bienvenue pour les états généraux de l'investissement social en Occitanie. Je suis Claire Stride, membre du think tank hashtag le plus important et porteuse de ce projet de montrer qu'en Occitanie aussi, on a des beaux projets à montrer. Alors, que sont les états généraux de l'investissement social? C'est un projet qui court sur une dizaine de semaines, organisé par un think tank qui s'appelle hashtag le plus important et par le CNAM. Le think tank hashtag le plus important a été fondé en 2017. C'est une association indépendante et qui a pour objectif en fait de produire et de partager des solutions concrètes pour relever les défis sociaux de l'économie numérique, pour développer le potentiel de chacun et rendre l'économie et la transition écologique plus inclusives. Le think tank fait des colloques, des webinaires, des tribunes, des rapports, des podcasts. On bosse beaucoup. On est une équipe de plus de 340 experts. On a à ce jour fait plus de 200 propositions de politique publique. Il y a plus de 38 projets qui sont accompagnés avec un Action Lab. Il y a énormément de choses qui sont faites au sein de ce think tank. Et notamment, il y avait l'envie de faire quelque chose de spécifique sur cette fameuse notion de l'investissement social. D'où ces états généraux qui se déroulent. Alors, essentiellement, alors normalement à Paris, mais maintenant on va dire en ligne, hein, je crois qu'il y a eu très très peu d'événements qui ont pu se faire en présentiel, avec quatre objectifs: tout ce qui est transition écologique, numérique et inclusive, tout ce qui est redonner une place et un avenir à chacun dans la transition numérique, rendre la transition écologique plus inclusive et plus efficace, et lutter contre les inégalités et l'insécurité économique. Là-dessus, on va travailler sur quatre axes pendant ces états généraux: l'investissement social et la transition écologique inclusive, l'investissement social et la transition numérique inclusive, l'investissement social et les territoires inclusifs, et l'investissement social et les entreprises inclusives. Plein de colloques que vous pourrez retrouver en ligne si vous allez sur le site transitioninclusive.org. Et comme je vous le disais, moi, en tant que résidente d'Occitanie, j'avais très très envie de mettre en avant les belles actions qui se font ici. Alors, ça a été très très difficile de choisir qui faire intervenir pour cette table ronde. On aurait pu avoir énormément de personnes, mais je me suis dit qu'il fallait aller choisir ce qui paraissait le plus emblématique. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi donc Valérie Miramont et Samuel pour le projet I Love Planet, Karine Deltour des équipières, Fabrice Vernet de Cyclopower Factory, Quentin Saïb de Hector le Collector et Madani Boussif de Colisi. Nous avons des partenaires qui sont là pour cet événement, donc Clotilde de La Mêlée, Cécile de la Cité de l'Impact et de la RSE et Fabienne du MEDEF. Donc on a voulu en fait avec cet événement montrer que oui, en Occitanie aussi, j'allais dire, il y a des beaux projets qui se font. L'idée, c'est surtout de passer un moment et de voir comment, en fait, aujourd'hui, on est dans cette logique d'investissement social. C'est une sémantique un peu particulière, mais l'idée, c'est vraiment de se dire comment, avec nos entreprises, comment avec nos associations, comment avec nos projets, on contribue à plus de choses positives pour la société, pour chaque personne. Nous aurions dû avoir avec nous Maxime Médard, vous l'avez vu peut-être sur nos communications, obligation d'entraînement oblige, j'allais dire. Donc, il est excusé, mais nous pourrons vous évoquer pourquoi il aurait dû être présent avec nous aujourd'hui. Et je laisse la parole de suite à Cécile qui va nous présenter son partenariat et la cité. À toi, Cécile.
Bonsoir à tous, merci Claire, merci de nous avoir associés à cette initiative. C'est vrai qu'on est dans un secteur, on parle d'inclusion, de pouvoir se retrouver multi-partenaires et multi-intervenants sur ce secteur, je pense que c'est déjà très important. Et la cité de l'impact et de la RSE est vraiment ravie d'être avec ce très beau panel d'acteurs du territoire sur cette question. Alors, je vais faire très vite, on est nombreux. La cité de la RSE et de l'impact accompagne les entreprises dans des démarches plus responsables. Donc, c'est en Occitanie un lieu, le Labo Ecos, qui accueille des événements. Et des acteurs aussi professionnels dans le secteur, mais c'est aussi donc un accompagnement qui est digitalisé pour permettre aux entreprises de s'auto-évaluer sur leurs pratiques et de pouvoir évoluer également dans une logique de collectif et de mobilisation sur son territoire ou dans son secteur d'activité. Donc évidemment, l'inclusion par le numérique responsable, c'est des notions dont on entend énormément parler. Tout le monde est évidemment concerné dans cette période plus particulièrement. Je suis ravie de pouvoir vous écouter, vous entendre, et j'espère que ça donnera lieu à des démarches ensemble par la suite.
Merci beaucoup, Cécile. Alors oui, hein, l'idée, c'est vraiment que voilà, chacun va avoir des petites questions. C'est vraiment un temps de parole, un temps d'échange. On est là pour voir comment chacun contribue de son côté. Et effectivement, si ces échanges peuvent être inspirants, si en nous écoutant, vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans la case questions et réponses toutes les questions que vous posez aux intervenants. Comme ça, on pourra enrichir tout ceci. Alors, première question, on part chez Hector le Collecteur, parce que déjà, je suis fan du nom, je trouve ça exceptionnel. Quentin, est-ce que tu veux bien nous parler d'Hector, de sa genèse et de ce que ce projet vient nourrir en fait pour ses collaborateurs et ses partenaires, s'il te plaît?
Absolument. Est-ce que tout le monde, c'est bon, on m'entend bien? Parfait. Eh bien, écoute, Hector le Collecteur, ça vient d'une problématique personnelle parce que moi, en fait, j'ai grandi avec un composteur au fond du jardin. Et en fait, quand je suis arrivé en centre-ville pour finir mes études, j'ai gardé le réflexe de tri. Mais en revanche, j'ai plus trouvé de solution pour recycler ces déchets. J'avais pas la place de mettre un compost dans mon appart. J'étais pas éligible à des composts partagés. Il y avait des listes d'attente un peu longues. Et en fait, j'ai pas trouvé une solution facile et accessible rapidement. Donc, à partir de ce constat, j'ai imaginé Hector le Collector. Et du coup, je me suis retrouvé être le premier utilisateur de mon propre service.
Alors, est-ce que tu veux bien nous expliquer en quoi consiste, alors déjà, pourquoi Hector et en quoi consiste ton projet, ton entreprise?
Ouais, ça marche. Alors, pourquoi Hector, pourquoi le nom Hector?
Oui.
Ça, c'est parce que toujours dans mon composteur de fond de jardin de famille, on a eu un rongeur qui est, une espèce de rongeur qui est venu faire son nid. Et en fait, il y a eu la question de comment on va faire pour s'en séparer. Et c'est, en fait, c'est un clin d'œil à ma petite sœur qui n'a pas voulu qu'on utilise une méthode létale pour s'en séparer. Et du coup, qui lui avait donné un nom, Hector, en se disant que si ça s'appelait Hector et qu'on lui donnait on le personnalisait, mes parents auraient moins de chances d'utiliser des pièges contre lui. Voilà. Et donc, du coup, c'est un petit clin d'œil à cette situation qui nous est arrivée et que j'ai repris pour le projet de l'entreprise.
Ok, excellent. Et alors, du coup, maintenant, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que fait Hector aujourd'hui?
Ouais, du coup, maintenant, aujourd'hui, Hector, c'est une entreprise qui propose une logistique de premier kilomètre pour la collecte des biodéchets. Donc, je vais inclure tout ce qui va être épluchures, fruits, légumes, mais au sens plus large aussi, la viande, le poisson, les coquilles des fruits secs, le marc de café, voilà. Donc, tout ce qui est vraiment alimentaire. Et en fait, notre objectif, il est simple, c'est de mettre ces déchets dans des filières de valorisation qui sont dites écologiquement adaptées. En fait, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement avec les filières d'incinération, comme on a sur Toulouse ou dans d'autres régions qui sont d'enfouissement. Pour la simple et bonne raison que ces déchets sont principalement composés d'eau. Donc du coup, si on essaye de faire brûler de l'eau, ce n'est pas facile. Je pense que si vous essayez de faire brûler une peau de banane avec un briquet, vous allez vous brûler les doigts avant la banane. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, donc ces déchets, il y a d'autres filières qui sont spécifiques pour traiter ces déchets. On connaît le compost. Il y a aussi une filière qui est moins connue et c'est celle qu'on exploite, nous, qui s'appelle la méthanisation. Et le concept, c'est en fait, ces déchets fermentent dans une cuve, du gaz est libéré. Et du coup, ce gaz, il est capté et ensuite, il peut être réinjecté, utilisé comme carburant. Enfin, il y a plusieurs utilisations possibles. Et à la fin de cette transformation, on a une matière qui reste riche et que les agriculteurs utilisent en engrais naturels. Donc, ils dépendent de ça sur leur champ. Donc voilà, typiquement une filière qui est écologiquement adaptée à ces déchets. Donc, du coup, nous, Hector, notre métier, c'est ça, c'est de sensibiliser et de proposer des solutions pour les personnes qui en ont besoin pour leurs déchets. Donc, on accompagne des entreprises, on accompagne des restaurateurs, on accompagne des commerces de proximité alimentaire qui font des épiceries vrac, par exemple, ou des primeurs, voilà, dans ces sujets-là.
D'accord. Et c'est vraiment très, très intéressant d'avoir cette vision. Donc, pour l'instant, plutôt pour les entreprises, est-ce qu'il y a une possibilité, je ne sais pas moi, pour les écoles, les cantines, ou pour les particuliers, c'est une chose vers laquelle vous avez envie de vous développer?
Absolument. Alors du coup, l'entreprise, en fait, l'originalité d'Hector dans l'entreprise, et ce qui correspondait finalement aussi à mes problématiques initiales, c'est de dire on va effectivement instaurer un tri des déchets sur place. Donc voilà, je finis pas ma salade, mon sandwich, je vide le marc de café de la machine si elle en fait, des choses comme ça. Mais en fait, l'originalité, notre force, c'est surtout de dire aux collaborateurs, ben, si jamais vous aussi vous cherchez une solution et que vous voulez trier vos biodéchets, avec Hector, vous allez pouvoir le faire facilement. Vous triez vos déchets chez vous et puis vous les apportez sur le point de collecte de l'entreprise. Donc c'est déjà une première façon pour nous de sensibiliser et de travailler avec le particulier. Mais à terme, on est en train de travailler avec Sous Métropole et d'autres collectivités pour des terrains d'expérimentation de quartier ou vraiment sous forme de points d'apport volontaire. Donc techniquement, c'est un peu comme une borne pour le verre. Ou alors, du coup, en bas de quartier, on pourrait amener ces déchets facilement et rapidement, sans file d'attente infinie, des choses comme ça. Au niveau des écoles, c'est en cours. Ça devrait être bon pour mars, j'espère, avril, dans Haussonne, qui est une métropole, qui fait partie de la métropole de Toulouse. Et donc, du coup, il y aurait deux écoles primaires qui seraient normalement en cours d'installation. Ouais.
Super, merci beaucoup, merci Hector pour cette belle présentation. On va voyager, partir du côté de Karine. Alors Karine, il y a plein, plein de choses à te dire sur toi. Donc en nous présentant les équipières, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'anime, ce qui fait qu'aujourd'hui tu es multicasquette, on va dire, je ne sais même pas comment te présenter, et qu'est-ce qui fait que du coup tu es vraiment quelqu'un de particulièrement engagé, notamment dans tout ce qui est transition inclusive?
Oui, alors merci Claire, tu m'as donné un exercice hyper intéressant de synthèse. Alors, moi je suis Karine Deltour en fait, donc j'ai fondé à la base j'ai fondé un organisme de formation spécialisé dans la facilitation et l'articulation des collectifs de travail, et notamment les collectifs de travail du champ de l'emploi, de la formation, de l'insertion socio-professionnelle, de l'éducation et du travail social. Donc, vous voyez, on est déjà dans une bonne sphère, tout ce qui est de l'ordre de l'accompagnement et de la relation. Alors, moi, je ne suis pas là pour parler de cette casquette en particulier, mais c'est la synthèse, en fait, de tous mes engagements et de toute ma vocation, on va dire, à être actrice sociale de territoire. Alors, en quelques mots, je pourrais le résumer en deux mots, hein, pour moi. C'est le terrain et l'agir. Voilà. Une fois qu'on a dit ça. Moi, j'ai toujours, en fait, ça fait 20 ans que je travaille sur les quartiers, des quartiers prioritaires où je suis venue, en fait, en travail très, très collaboratif, à implanter des structures, qu'elles soient mobiles ou durables, des structures assez alternatives. Je prends un exemple très concret. Un théâtre de poche dans les quartiers prioritaires. On est allé amener du théâtre dans les corbières pour redynamiser les territoires ruraux. On a implanté des friches industrielles pour mettre l'art au service des bénéficiaires de territoires qui n'ont pas forcément l'habitude ou l'accès à la culture favorisée. Donc voilà, ça c'est un démarrage au fort. J'ai toujours été très enclin à mettre en mouvement les territoires avec des acteurs, voilà, de terrain. Alors, un principe fort quand même, c'est le développement du pouvoir d'agir. Alors, le développement du pouvoir d'agir, pour ceux qui ne connaissent pas, je ferai un petit off tout à l'heure en fonction des questions. Mais c'est une approche en fait qui travaille sur la dynamique des collectifs et des individus. Et donc, de ce fondement-là, moi, j'ai développé, on va dire, une multipotentialité. Claire, ça va te parler. C'est-à-dire que je suis partie sur plutôt plusieurs territoires. Donc, je suis assez militante du point de vue associatif. Donc, je suis présidente du Centième Singe, relais territorial pour 100 000 entrepreneurs. Et avec la crise du Covid, il y a eu une sorte de volonté forte de mettre en œuvre en fait des actions un peu plus ciblées sur les femmes. Oui, au passage, j'ai oublié de dire, je suis administratrice d'OLF 31. Et de ces engagements, j'ai eu envie, enfin, on a eu envie de créer l'association des équipières. Alors, l'association des équipières, en fait, c'est simple, c'est 6 femmes au préalable, toutes issues de plein de champs différents, de l'insertion, du travail social, du juridique, toutes dans des structures plutôt publiques. Dans du SPE, dans du SPRO, donc je traduis Service public de l'emploi, Service public régional de l'orientation. Et en fait, on a eu envie de créer un espace, un lieu intermédiaire, où on vienne mettre en expérimentation et en action déjà différents niveaux d'expertise et de mutualiser nos expertises pour créer des actions très alternatives. Alors, quand je dis très alternatives, nous, on est à l'intérieur, on a travaillé à l'intérieur des institutions. Moi, j'ai été conseillère en insertion pendant une quinzaine d'années pour un établissement public administratif, en lien avec des demandeurs d'emploi très éloignés de l'emploi, en situation d'interculturalité et de mobilité. Et penser à l'intérieur des systèmes, c'est bien, mais penser aussi à la marge, c'est aussi pas mal. Et je n'oppose pas les deux, puisqu'on vient toutes de ces endroits, mais je trouvais que c'était intéressant de faire un espace complètement à la marge pour venir réfléchir, expérimenter des actions innovantes à destination de promotion, enfin pour promouvoir la lutte, enfin pour promouvoir la lutte. Je vais faire des petits lapsus comme ça. Voilà, pour promouvoir des actions à destination des femmes et des femmes en difficulté et qui n'ont pas accès prioritairement à tout ce dont voilà, tout ce dont elles auraient droit. Donc, j'actionne des réseaux, des écosystèmes, je crée des passerelles et sur la base on va dire, de 3 fondamentaux, hein, qui sont la facilitation. Bon, ben voilà, on est tous plus ou moins des facilitateurs, mais de le mettre en mouvement à l'intérieur des systèmes, ça prend toute son importance. Alors là, je suis un peu conceptuelle. Pour revenir un petit peu dans le dur, nous actuellement, on crée des marches exploratoires où on va travailler dans des espaces un peu, des grands espaces, où on vient travailler sur justement l'intermédiation. Mais Virginie pourra le développer plus longuement que moi. Je vous invite à lire son mémoire si elle veut bien le diffuser, justement pour réfléchir sur comment mailler. Et comment faire en sorte que chaque acteur et chaque actrice dans ces sphères d'expertise viennent réfléchir en intelligence collective et viennent proposer des actions innovantes. Voilà, en quelques mots.
Merci beaucoup, Karine. Donc, on se rend compte que voilà, si on a des questions, des envies de tout ce qui va pouvoir aider les femmes, mettre du sens par rapport à tout ceci, tu es une de nos interlocutrices privilégiées. Est-ce que tu veux bien citer le mémoire de Virginie Durand, s'il te plaît?
Oui, alors elle l'a mis dans le chat. Donc c'est très exactement, je vous le redis, je l'ai noté. Il faut que je remonte. C'est le paradoxe de l'accompagnement socio-professionnel des chercheurs d'emploi et l'intermédiation territoriale comme solution. C'est
Ok.
tout un programme.
Voilà, on remettra la référence en dessous de la vidéo pour ceux qui nous regarderont en replay. Merci beaucoup pour cette présentation qui donne envie de t'écouter encore plus longtemps et surtout de savoir comment on peut t'aider et s'engager à tes côtés. C'est ce qui me plaît dans ce type d'événement, c'est qu'à chaque fois, voilà, vous allez vous en rendre compte quand vous allez écouter chaque interlocuteur, vous allez plus savoir avec qui vous allez avoir envie de travailler. Donc c'est ça qui est chouette et auprès de qui vous avez envie de vous investir. Merci beaucoup, Karine. Madani. Mélanie, toi, c'est l'enjeu du dernier kilomètre dans les livraisons. Est-ce que tu peux nous dire comment on en fait quelque chose qui contribue à l'investissement social, s'il te plaît?
Tout à fait. Merci encore une fois, Claire, pour l'invitation déjà. On va commencer par les remerciements et merci de m'avoir associé à ce panel d'acteurs aujourd'hui qui contribuent en tout cas largement à l'inclusion et à la transition du numérique, écologique et j'en passe. Alors, à travers la solution Colizy, je ne sais pas si je dois quand même commencer par présenter un petit peu
Comme tu
ce qu'est
veux.
la solution Colizy, parce que je ne pense pas que tout le monde puisse connaître.
Mais...
Aujourd'hui, Colizy, c'est une start-up toulousaine qui propose en fait une solution de livraison locale entre particuliers. Donc, le principe, c'est de mettre en relation en fait, des particuliers qui souhaitent expédier ou recevoir des colis ou des objets avec d'autres personnes qui effectuent sur leur trajet du quotidien les livraisons. Et du coup, ça me permet de rebondir sur la question, Claire. Aujourd'hui, voilà, Colidzy intervient dans beaucoup de facteurs, notamment aussi dans la sensibilisation à l'écologie, parce qu'on utilise en fait des particuliers qui effectuent des trajets du quotidien pour effectuer des livraisons. Donc, on évite de rajouter des véhicules sur les véhicules qu'il y a déjà dans les centres-villes, notamment. On favorise également et on entretient le lien social. Les personnes ne se connaissent pas et évidemment, bien sûr, ils apprennent à se connaître quand ils se croisent et quand ils se côtoient, quand ils se voient. Et également, on permet grâce à notre solution en fait, d'améliorer le pouvoir d'achat en proposant aux utilisateurs, notamment d'arrondir leur fin de mois en effectuant des petites livraisons sur leur trajet du quotidien. Donc voilà, en fait, on intervient sur plusieurs facteurs, notamment dans la transition numérique, dans la transition écologique également. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et on participe aujourd'hui, bon, évidemment, on est sur la région toulousaine, mais on va aussi également se déployer partout en France petit à petit. Ce qu'il faut savoir, c'est que la société existe depuis tout juste un an et elle a déjà fait son petit bout de chemin. Donc on répond à pas mal d'enjeux dans cette thématique-là.
Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé justement à t'intéresser à ce projet-là, à cette logique des derniers kilomètres? Alors, on sait qu'il y a plein de, comment dire, des grosses boîtes internationales dont nous tairons le nom, pour qui c'est un vrai business. Vas-y, peux-tu nous expliquer cette genèse?
Ouais, alors déjà, bon, c'est vrai que par rapport aux grandes boîtes qui existent, et pas que d'ailleurs, il y a aussi des petites boîtes aussi qui proposent des solutions de livraison, elles sont essentiellement axées en fait sur ce qu'on appelle de l'express ou de la livraison, en fait, c'est de la livraison classique, traditionnelle. Moi, j'interviens sur le dernier kilomètre, c'est une solution en fait complémentaire à ce qui existe déjà. Donc, je ne viens pas du tout concurrencer ce qui existe, il faut le savoir et il faut le souligner. Comment m'est venue l'idée, en fait? Eh bien, justement, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait, c'est que je travaillais moi-même en tant que livreur et j'ai été confronté à beaucoup de problématiques, notamment aux problèmes de livraison. Alors, et en plus, là, on parle beaucoup, justement, c'est un sujet actuel, tout ce qui est ZFE, donc on essaie de limiter un petit peu l'impact écologique, notamment dans les centres-villes. Et j'étais confronté à plusieurs reprises, en fait, en tant que livreur, à ne pas pouvoir accéder à certaines rues du centre-ville parce que ben, y avait parfois des journées où les véhicules étaient interdits aux camions. Donc, on était confronté à cette problématique. Donc, je devais me garer en bout de rue et je devais faire tout le trajet, parfois un kilomètre avec des colis à bras-le-corps. Et je le faisais. Donc, je me suis dit, il va falloir quand même penser à des solutions. On peut pas continuer à travailler dans ces conditions-là. Et je voyais en fait autour de moi qu'il y avait plein de personnes qui étaient là, les bras vides en fait. Et je me suis dit, ça peut être intéressant aussi de les faire contribuer et en même temps de les sensibiliser quelque part aussi à cet élan écologique. Donc, non seulement ça leur permettra d'arrondir leur fin de mois, pourquoi pas, mais aussi de les sensibiliser à l'écologie parce qu'ils participent eux aussi, donc en devenant acteurs du coup et non plus spectateurs, parce qu'aujourd'hui, dans la société, on nous demande d'être acteurs et pas forcément spectateurs et pas forcément acteurs. Et là, ben, avec Colidzy, justement, ça nous permet ben, de rendre acteurs tous les particuliers qui habitent les centres-villes à participer justement à la livraison de ce petit dernier kilomètre qui est aujourd'hui une grosse problématique dans le secteur de la livraison. Donc voilà en gros comment m'est venue l'idée, entre guillemets.
Ouais, super. Et ben, de toute façon, on le voit, hein, ça vient, comment dire, on sait que dans les projets comme ça qui font sens, il y a toujours un vécu derrière, alors que ce soit un petit rongeur au fond d'un jardin ou que ce soit effectivement toi qui as décidé d'arrêter ta musculation naturelle. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est cette notion de lien social. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe aujourd'hui? Qui sont les personnes qui travaillent pour toi, qui font ces fameux derniers kilomètres? Et qu'est-ce que, au-delà de l'impact financier, qu'est-ce que socialement ça leur apporte en fait?
Disons qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes en fait qui… c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se fait livrer un colis, d'une manière générale, on va se faire livrer par un livreur qui est très souvent d'ailleurs pressé pour la plupart du temps et à juste titre, hein, il a toute une tournée en fait de colis à effectuer, de livraison à effectuer. Donc, on ne prend pas le temps d'échanger, de discuter. Alors que là, concrètement, en fait, justement, de pouvoir proposer une solution de livraison locale, et j'insiste bien sur le terme local, ça permet déjà de connaître son voisin qu'on ne connaît pas forcément. Alors, le voisin passe par un endroit, par hasard, en fait, il se trouve qu'à cet endroit-là, il y a un colis qui doit être expédié pour venir justement chez moi. Ce voisin-là, je ne le connais pas, mais là, en fait, il décide, ce voisin, de récupérer le colis et de le livrer à mon domicile. Ça va créer du lien social. Pourquoi ? Parce que déjà, on ne se connaissait pas avant qu'il effectue la livraison. Ça va nous permettre de nous connaître et de savoir justement, eh ben voilà, tu fais quoi dans la vie ? Il peut y avoir des échanges justement qui se font, tu habites où ? Et justement, sur toute la période test de Colizy, donc depuis l'année dernière, j'ai été confronté à plusieurs problématiques, notamment à cause du Covid, parce que justement pendant la première période de confinement qu'on a tous connue, où il y avait justement énormément une grosse pénurie de gel hydroalcoolique, de pas mal de choses, en fait, de gants. Donc, il y avait le personnel médical qui était en manque justement de matériel médical, et il y avait des particuliers qui, chez eux, avaient des stocks. Et moi, je me suis mis en intermédiaire, en fait, pour effectuer les mises en relation. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a créé vraiment des connexions. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se connaissent grâce, entre guillemets, à la solution que j'ai proposée. Donc, ça a vraiment créé du lien social. Et il y a des personnes qui, aujourd'hui, sont devenues amies parce que justement, il y a eu cette connexion qui a pu être faite. Donc, il y a vraiment, en fait, au-delà de… Évidemment, je te rejoins, au-delà du fait qu'on peut arrondir nos fins de mois, au-delà qu'il y a aussi un impact écologique très important aussi dans notre solution qu'on apporte, il y a aussi ce lien social en fait qui se crée et on apprend à connaître finalement nos voisins qu'on ne connaissait que de vue avant d'effectuer les premières livraisons.
Et tes livraisons, elles se font, c'est à vélo, c'est à pied, c'est comment, c'est en voiture, c'est là, tout est libre en fait par rapport à ça.
Exactement, okay. En fait, ça dépend surtout du format du colis. Si c'est une petite enveloppe, je ne vois pas l'intérêt de la transporter avec un véhicule. Si c'est un gros frigo, ça va demander un peu plus de moyens. Mais l'idée, c'est de pouvoir surtout mettre en relation des personnes qui effectuent des trajets du quotidien. En fait, c'est pas forcément de faire intervenir une personne qui est loin du point de départ. L'idée, c'est de pouvoir vraiment connecter les personnes entre eux grâce à un système de géolocalisation. Et voilà, ça permet en fait tout simplement de pouvoir permettre à toutes les personnes, que ce soit à pied, à vélo, en transport en commun aussi, parce que j'ai beaucoup de personnes qui effectuent des livraisons en transport en commun. Ça peut arriver, ça arrive très fréquemment. Voilà en fait, et c'est limité, c'est ultra limité à 50 km maximum, donc je veux vraiment pas grossir ce champ d'action pour des raisons écologiques simplement.
Ok, et dernière question, les profils des personnes qui osent faire ces derniers kilomètres, tu as plus d'hommes, de femmes, il y a plus de concentration en fonction de certains quartiers, qui travaille pour Colizy?
Alors, j'insiste sur le fait que ça soit uniquement des particuliers. Je n'ai pas du tout de notion en fait d'auto-entrepreneuriat dans mon activité. Les particuliers peuvent générer jusqu'à 3 000 € de revenus complémentaires par an, à condition qu'ils le déclarent évidemment, bien sûr. Mais voilà, j'insiste là-dessus. Alors, c'est vraiment, j'ai tous les âges en fait en réalité, parce que ça peut être une personne en fait qui va au travail le matin, qui effectue des trajets réguliers en fait, qui va au travail le matin et qui rentre le soir, qui récupère une course sur sa route. Plutôt que de récupérer un passager, pour ne pas citer d'autres exemples, parce qu'on peut aussi prendre des passagers. Alors, il y a des personnes qui refusent de prendre des passagers, mais qui préfèrent prendre des petits colis. Donc, ça peut être une personne qui travaille. Ça peut être aussi des personnes qui sont sans activité. Donc, ça leur permet aussi de gagner un petit peu d'argent. Donc, ça, c'est… Et la typologie, en fait, c'est autant d'hommes que de femmes. Alors, à un moment donné, j'ai eu plus de femmes que d'hommes.
D'accord.
Ça aussi, c'est une réalité. Et voilà, donc c'est des personnes, c'est des jeunes actifs pour la plupart. Et il y a aussi des personnes retraitées qui utilisent mon application aujourd'hui. Donc vraiment tout type de personnes qui effectuent des trajets du quotidien en fait. Et encore une fois, que ce soit à vélo ou en véhicule ou en transport en commun, pas de limite à ce niveau.
Super. Merci beaucoup, Madani, de nous avoir fait découvrir Colizy. Et ce qui est chouette, c'est qu'on voit qu'effectivement, ça peut parler à tout le monde. Chacun peut se sentir concerné, chacun peut contribuer. Et voilà, c'est ce qui fait que tu es toi aussi dans cette logique d'investissement social. On va aller voir Fabrice. Alors Fabrice, tu n'es pas encore en Occitanie, mais tu t'en rapproches par rapport à ce que tu proposes. S'éclairer en pédalant, voilà ce qui motive les gens. Peux-tu nous expliquer la philosophie de Cyclo Power Factory ?
Oui, bien sûr. Ouais, effectivement, désolé de ne pas faire partie de la team chocolatine.
Pas encore.
Je suis prêt à faire un effort. Je vais vous expliquer effectivement Cyclo Power Factory, ce qu'on veut faire avec ce projet. Mais merci Claire de m'avoir invité à cette table ronde. Si je n'étais pas venu en tant que conférencier, je serais venu en tant que spectateur. parce que moi, je me pose plein de questions aussi sur comment être plus inclusif dans nos activités. Donc, je suis très content de pouvoir échanger avec mes pairs sur ces sujets. Cyclo Power Factory, donc nous, en fait, l'idée de départ, elle est simple. On s'est dit que le sport, c'est quelque chose qui est hyper fédérateur, qui est universel. Partout dans le monde, des gens font du sport. Ça gomme toutes les inégalités. On est tous égaux sur un terrain de sport. Et voilà. Et donc, on s'est dit, en fait, ce levier, il peut être formidable pour sensibiliser aux grands défis du moment et notamment aux défis de la transition énergétique. Donc, ça, c'est le point de départ du projet. Donc, nous, Cyclo Power Factory, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc, on est une start-up du sport et de l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment, notre projet, il repose sur ces deux jambes. Et donc, on a décidé de proposer des expériences de fitness à impact. Donc, concrètement, on fabrique, on a développé une gamme d'équipements de cardio-training 100% made in France. Aujourd'hui, les équipements de cardio-training, c'est fabriqué au bout du monde avec un bilan carbone tout pourri, pardon. Toujours plus gros, plus de plastique, etc. Nous, nos équipements, ils sont donc faits en France par des petites PME françaises. On a une démarche d'éco-conception dès le début de notre phase de R&D. Donc, on s'est associé les services d'une agence spécialisée pour nous aider à faire les bons choix, pour vérifier que le carbone qu'on utilise pour fabriquer notre produit, il soit le plus faible possible et surtout qu'on le rembourse dans l'exploitation du produit, puisque en fait, l'autre particularité de notre équipement, c'est qu'on va donc récupérer l'énergie dépensée par la personne qui est sur l'équipement, qui pédale, pour prendre l'exemple du vélo, et on va la transformer en électricité par nature renouvelable. Ça, c'est la partie hardware, mais en fait, on va au-delà. Nous, on veut encore une fois proposer une expérience qui utilise le sport pour sensibiliser. Et donc, on a une application qui est connectée avec l'équipement où vous pouvez suivre votre performance, vos données de sport, votre vitesse, les kilomètres parcourus, etc., mais également vos données énergétiques et environnementales. Et surtout, vous pouvez interagir avec la communauté des éco-sportifs qu'on veut créer sur des défis énergétiques. Donc ça, comment ça marche en fait? Vous pouvez, à travers l'expérience qu'on propose, participer à des défis énergétiques de compensation de l'empreinte énergétique d'usage du quotidien. Toute la journée, à partir du moment où on se lève, les gestes, les actions qu'on a, elles ont une empreinte énergétique. Sauf qu'on n'a pas vraiment conscience de cette empreinte. Et donc, nous, à travers l'expérience qu'on propose, on peut par exemple compenser l'énergie utilisée par le moteur électrique d'un ascenseur, quand vous prenez un ascenseur pour monter 3 étages. Je vous donne une équivalence. 3 étages en ascenseur, c'est une demi-heure de vélo. Quand vous mangez un steak haché, on ne se rend pas compte, mais il faut élever la vache, et amener le steak jusque dans votre assiette. C'est 13 heures de vélo. Et donc, comme ça, avec ces équivalences, on aide à la prise de conscience. On le fait de façon pas du tout moralisatrice. Vous faites du sport, c'est cool. Et par ailleurs, avec l'équivalence, on vous donne une information. Vous en faites ce que vous voulez, mais la sensibilisation, c'est la première étape avant le passage à l'action. Et on le fait de façon ludique. On peut inviter ses amis à faire un défi énergétique. Quand on est connecté, on peut inviter quelqu'un qui est à Toulouse et quelqu'un qui est à Paris et ensemble faire un défi énergétique. On a toute une expérience de gamification pour inciter à l'activité parce que nous, notre enjeu, c'est que la communauté soit la plus grande possible et que les gens viennent souvent pédaler et fassent le plus de défis énergétiques pour pouvoir justement être le plus grand nombre sensibilisé. Donc voilà notre projet. Donc on a un impact environnemental par l'expérience qu'on propose, à la fois sur l'amélioration d'un existant en termes de matériel, sur le fait que ces appareils ils produisent de l'énergie plutôt qu'ils n'en consomment, et sur toute cette expérience de sensibilisation de nos utilisateurs. Mais on a voulu aussi avoir un impact social. Moi, depuis que la loi sur l'ESS est sortie, je m'intéresse à ces sujets et puis ça vient en écho à des valeurs personnelles. En gros, on peut faire du business, c'est pas sale, mais on peut le faire de manière éthique. Et pour moi, c'est un peu le sens que je donne à l'économie sociale et solidaire. Après, on peut très bien faire du business de manière éthique sans être une structure de l'ESS. Donc nous, on a voulu aussi avoir un impact social. Et l'impact social, il est en fait sur notre activité. Nous, on propose à nos clients, c'est plutôt des entreprises, des clubs de fitness, du B2B. On leur propose en fonction des volumes, des quantités d'énergie produites, faire des équivalences, de soutenir des associations qui luttent contre la précarité énergétique. On est sur le thème de l'énergie, donc nous, notre impact social, par cohérence, et puis parce que la précarité énergétique, c'est un vrai sujet qui a plein de conséquences, on propose de reverser, en fonction des seuils atteints, une partie du gain qu'ils ont sur leur facture, et même au-delà, à nos partenaires associatifs. Et nous, en tant que structure de l'ESS, on reverse aussi un pourcentage de notre chiffre d'affaires à ces partenaires. Donc voilà, nous, on a voulu, en quelque sorte, inventer le fitness utile. C'est utile pour sa santé de faire du sport. Là, on n'a rien inventé, mais on rajoute de l'utilité environnementale, on rajoute de l'utilité sociale. Et voilà. Et après, l'utilité sociale, on la veut aussi au-delà de notre activité, dans notre organisation, dans notre gouvernance, dans nos recrutements, dans le choix de nos fournisseurs. Et voilà. On a des ambitions là-dessus. Alors, on n'arrive pas toujours à atteindre nos ambitions, mais aussi parce qu'on est une start-up, qu'on est encore petit et voilà, et que ça prend du temps. Mais voilà, on pourra y revenir. Et moi, ça m'intéresse de discuter avec les autres conférenciers et aussi les spectateurs s'ils ont des choses à dire là-dessus. Voilà, nous, par exemple, pour le recrutement, on veut être hyper inclusif, avoir la parité, aller chercher des profils éloignés de l'emploi. Aujourd'hui, on est 6, on est 5 mecs blancs. Voilà, ça l'empête. Mais pourtant, on essaye d'aller sur des réseaux pour recruter. Pour le moment, on n'a pas encore réussi. On garde évidemment cet objectif en tête et on espère qu'au fur et à mesure, si on grandit, de pouvoir rectifier ça. Mais ce n'est pas simple, en fait, de mettre en accord ces ambitions et puis il y a des principes de réalité. Voilà.
Tu soulèves quelque chose d'extrêmement important. Merci beaucoup pour ta présentation. C'est vrai qu'entre ce qu'on a envie de faire, la façon dont on veut le faire, là où on veut arriver, on se rend compte qu'à chaque fois, il y a plein de différences. On peut être plein de bonne volonté, essayer de se dire oui, mais non, on va faire ça comme ça. Ce n'est pas toujours forcément évident. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'on fait avec qui on est, avec notre réseau, et que sortir de notre réseau premier, j'allais dire, ce n'est pas forcément facile si tu ne fais pas des partenariats avec des associations, si tu ne fais pas des événements comme celui-ci, hein, donc toute personne qui va voir cette vidéo pourra te contacter après pour te mettre en contact avec d'autres personnes. Il y a peut-être même déjà des connexions à faire entre vous ici, mais c'est vrai que voilà, ça, dans cet engagement que vous avez tous, effectivement, c'est une vraie question de se dire comment vous arrivez à être à la hauteur de vos ambitions et à vous sentir quand même fier de qui vous êtes et de ce que vous faites, si jamais ce n'est pas toujours à la hauteur de ce que vous voulez faire. Alors, Maxime Médard devait être avec nous parce que c'est un de tes partenaires. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de ce partenariat?
Oui, alors je suis désolé, vous devez avoir Maxime Médard, vous n'avez que Fabrice Vernet.
Ça passe.
Alors Maxime, il a donc investi dans la société. Et c'est notre ambassadeur. Juste pour l'anecdote, on ne s'est jamais rencontré. On s'est contacté, c'est lui qui m'a contacté sur LinkedIn. J'aime bien ce que vous faites. Est-ce que vous cherchez un ambassadeur? Et j'ai dit oui, on cherche éventuellement un ambassadeur et aussi un investisseur. Il m'a dit moi je peux éventuellement être les deux, parce que là je crois qu'il est dans sa dernière année de joueur professionnel et il prépare l'avenir. Et donc voilà, après on s'est très souvent au téléphone et ça a bien, le courant est bien passé, et lui aussi il cherche vraiment à s'investir dans des projets à impact. Enfin, je ne veux pas parler en son nom, mais voilà, il cherche à donner du sens dans ses jobs d'après-carrière et dans ses investissements. Et donc sans qu'on se soit vu, on devait se voir d'ailleurs, si l'événement avait été en physique, ça aurait été l'occasion de se voir
aujourd'hui.
Enfin pour de vrai aujourd'hui. Nous on est évidemment ravis de l'avoir, il est hyper sympa et je me rapproche de Toulouse et je dirige Chocolatine, j'y reviens.
C'est ça. Maxime. Et donc voilà, mais ça qui est très intéressant, c'est de voir qu'effectivement, ton projet a intéressé un sportif de haut niveau et qui a vu tout l'intérêt justement d'allier le sport, des valeurs à quelque chose à l'ESS, à la transition écologique et digitale, etc. Donc, c'est vrai que par rapport à tout ceci, en fait, on se rend compte que dans toutes les actions que vous proposez, ça fait sens, les gens le reconnaissent. Et c'est ça qui est chouette. Alors, parenthèse, vous avez échappé à une table ronde entièrement sur le matériel de Fabrice parce qu'on voulait faire une sorte de défi, mais c'était compliqué à organiser aujourd'hui. Mais je ne dis pas que dans l'avenir, on ne fera pas une prochaine rencontre comme ceci. En tout cas, merci beaucoup, Fabrice, de nous avoir présenté Cyclopower Factory. On va terminer ce premier tour d'écran avec Véronique et Samuel avec I Love Planet. Alors, il existe des milliers d'initiatives visant à faire du bien à la planète. Véronique, pourquoi avoir créé I Love Planet? Qu'est-ce que ce projet a de particulièrement impactant? Et Samuel, toi qui as participé, on veut bien avoir ton témoignage aussi. On vous laisse la parole.
Mais tout d'abord, merci Claire. Et puis, ben, oui, je suis ravie de rencontrer tout ce panéliste, tous ces acteurs. Et franchement, depuis tout à l'heure, je prends des notes, je dis mais oui, mais c'est génial, on va faire ça ensemble parce que je trouve ça vraiment super. Et c'est vraiment, je pense que plus on sera nombreux et plus on ira loin. Donc, I Love Planet, je dirais que c'est né parce que je suis moi-même, c'est mon parcours qui m'a amenée à créer I Love Planet rapidement. Ce sont les étudiants, ce sont les jeunes. Parce que j'interviens, je suis communicante et à la fac, les étudiants d'année en année me disaient qu'ils étaient une génération sacrifiée, une génération éphémère, qu'ils n'avaient plus confiance en l'avenir, qu'ils n'avaient plus d'espoir et que de toute façon la planète allait exploser et que moi, plus je n'entendais pas parler ces jeunes, plus je me disais il faut faire quelque chose. Et donc en fait, I Love Planet, c'est redonner l'espoir. I Love Planet, c'est de l'écologie positive. I Love Planet, c'est dire il y a une opportunité, saisissons cette opportunité, allons de l'avant et n'écoutons pas tout ce qu'on nous raconte. Évidemment, on est conscient de ce qui se passe, évidemment, on ne renie pas ce qui se passe parce que malheureusement, on y va droit devant. Mais je pense que moi, c'était simplifier la communication et positiver la communication avec I Love Planet pour pouvoir aller chercher les jeunes et leur dire, mais attendez, vous n'imaginez même pas ce qui se passe en fait. Tout ce que nous avons fait, toutes nos conneries, on oublie. Maintenant, vous avez une page blanche et vous allez réécrire l'avenir. Et donc, en fait, je les amène avec le jeu, avec pareil, beaucoup d'ateliers. Je fais beaucoup de clean-up, mais des clean-up musicaux, des clean-up où il y a de la fête, des clean-up où il y a du pique-nique, du clean-up, où on fait des ateliers, etc., où on nettoie la planète, mais on nettoie la planète avec à chaque fois une fête. On fait la fête, on se réunit, on échange et on crée vraiment du lien. Et on essaie aussi, Samuel en témoignera tout à l'heure, d'aider aussi des jeunes qui sont éloignés de l'emploi à retrouver du sens dans leur vie, à rencontrer des acteurs comme aujourd'hui, à pouvoir se dire que ils sont aussi acteurs de cette planète et que justement s'ils ne trouvent pas d'emploi, c'est parce que tout ce qu'on leur a appris à l'école, on n'en a plus besoin. Maintenant, on a besoin de personnes neuves avec des idées neuves comme là, on vient de le voir et que on compte sur eux. Et donc, moi, je suis un petit peu je dis toujours, je suis acteur de la transmission écologique. Je suis là, je suis un passeur, je suis là pour essayer de les accompagner. Et je pense vraiment que la protection de la nature, elle passe par l'éducation. Donc forcément, il y a des outils. Moi, je suis fresqueuse du climat, donc je participe à la fresque du climat. Donc en expliquant de façon ludique et pédagogique, c'est quoi les causes et conséquences du réchauffement climatique et à quel moment l'activité humaine a fait que aujourd'hui, il y a une explosion du système et qu'il faut arrêter. Et donc, l'idée, c'est par de l'événementiel, par du festival, par de la musique, par des ateliers, des choses comme ça, c'est de dire, on va protéger la planète ensemble, on va changer d'attitude, on va faire changer l'attitude, on va faire agir les autres. Et c'est parce que les gens, ils vont voir qu'on est heureux et parce qu'on est dans la joie et dans le partage que les gens vont avoir envie d'y passer. Parce que moi, mon expérience, j'ai organisé un événement, un grand éco-festival que vous voyez derrière à I Love Planet. Je me suis rendu compte que le mot écologie, ça faisait chier beaucoup de monde. Excusez-moi de parler comme ça, mais vulgairement, c'est la vérité. Et donc, je me suis dit, purée, mais j'ai pris une claque parce que je me suis dit, mais c'est quoi ? Ils sont climato-sceptiques, c'est dans le déni et tout. Non, pas du tout. C'est qu'en fait, les gens, ils disent, mais oui, mais bien sûr, moi, j'ai ma gourde, moi, bien sûr, aussi, j'ai mon compost, moi aussi, bien sûr, je fais attention, j'achète sur Vinted, moi aussi, je vais aux puces, moi aussi, je vais. Bon, voilà. Mais en fait, les gens. Souvent, on est tellement un discours en France où on culpabilise tout le monde, où on est dans moralisateur, etc., que moi, j'essaie vraiment de, justement, avec I Love Planet, de rendre les choses simples. Et quand les gens font des choses bien, comme maintenant, je suis une caisse de résonance, en fait. Je suis là pour dire, parce que je suis aussi attachée de presse, donc je dis aussi à la presse, lui, il fait un truc super bien, parle-en. Arrête de parler des choses négatives, arrête de nous dire qu'on va tous crever, arrête de nous dire, dis-nous qu'il y a des solutions alternatives. Et I Love Planet est là pour le dire haut et fort. Voilà, c'est ça, I Love Planet.
Je pense que tu ne pouvais pas le dire mieux que ça qu'avec le cœur, tu vois. Merci beaucoup, Véronique. Samuel, écoute, tu as expérimenté I Love Planet. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as vécu?
Alors, je pense que je ne pourrais pas le résumer mieux que Véronique. Alors moi, j'ai été introduit à Love Planet par le biais d'une association qui s'appelle Coraline, qui exerce un petit peu ce que, si j'ai bien compris, ce que vous faisiez avant, Karine, donc l'accompagnement dans la recherche d'emploi. Et on m'a proposé d'être bénévole pour un festival, donc je me suis dit, pourquoi pas. Et on m'a dit éco-festival, je me suis dit, ah, ok. Donc tout de suite, je me suis dit, donc moralisation, culpabilisation, c'est un peu une certaine toxicité dans l'air. Et puis je me suis renseigné, je suis allé voir la page internet du festival en question, et puis j'ai vu que c'était totalement l'inverse, que c'était incitatif, participatif, il n'y avait rien de forcé, c'était au contraire des propositions de nouvelles façons de voir l'écologie, de concevoir l'écologie et d'adopter de nouvelles habitudes, une nouvelle responsabilité vis-à-vis de l'environnement et de la question d'écologie. Et le festival s'est déroulé exactement de cette manière, donc avec des intervenants qui agissent dans l'écologie avec cet état d'esprit, vouloir partager de nouvelles façons de faire les choses. Et c'était globalement une très bonne ambiance sur les 2-3 jours qu'on a passé tous ensemble. Et je pense que tout le monde a appris un petit peu comment changer pour le meilleur.
Alors, l'idée aussi de Claire, de la présence de Samuel, c'était parce qu'on est allé voir Coraline à Hello Planet en disant, bah, il y a des jeunes qui sont éloignés de l'emploi. Et il y a des jeunes, parce que Coraline s'occupe beaucoup des jeunes en quartier prioritaire. Je vais te parler d'hypersensibilité, tu vas comprendre de quoi je veux parler, Claire. Et donc, en fait, j'ai rencontré un vivier d'hypersensibles chez Coraline. On a passé du temps ensemble, hein. On a fait plein de choses ensemble, on a ramassé des déchets ensemble, on a nettoyé, on a pique-niqué, on a fait plein de choses. Et en fait, l'idée, c'était, bah, comme j'ai pu le faire avec vous, c'était de transmettre ma passion et de leur dire que je sais qu'ils sont passionnés parce que souvent, ils aiment la nature, parce qu'ils ont envie de se sentir utiles. Et en fait, c'est ce qui s'est passé parce qu'on a créé une Green Team. Donc Samuel fait partie de la Green Team et vous voyez, je vais vous dire quelque chose parce qu'il m'a confié ça tout à l'heure, il s'est tellement investi sur I Love Planet qu'il s'est fait une entorse et qu'il n'a rien dit, il a travaillé jusqu'à la fin tellement il a marché sur le festival, le pauvre. Donc vous voyez un peu l'investissement, voilà. Il n'avait pas de vélo, donc voilà, peut-être qu'il aurait fallu...
Ouais, mais c'est vraiment ce qui prouve, et merci beaucoup pour ce partage, et merci Samuel pour ton apport, que pour toi, ça faisait sens, en fait, et que tu étais prêt à te dépasser pour quelque chose. Et effectivement, quand on est éloigné de l'emploi, qu'on ne sait plus trop où on va, etc., réussir à trouver une asso comme ça ou un projet dans lequel on s'investit jusqu'à l'entorse, ça montre qu'effectivement, bah, c'est... Tu es au service de quelque chose de plus grand que toi. Et je crois que c'est vraiment ce qu'on porte tous ici aujourd'hui. En tout cas, c'est un vrai bonheur d'écouter chacun des projets. J'aimerais en avoir 50 de plus à présenter. Mais là, on a fait le tour de tous les panélistes. Merci infiniment, Véronique et Samuel. Je vais aller maintenant vers Fabienne. Fabienne, partenaire avec le MEDEF pour cet événement. À toi l'honneur, Fabienne.
Mais moi, je suis ravie, donc bonjour à toutes et à tous, de vous rejoindre, d'être partenaire de cet événement, parce qu'il était important pour le MEDEF qu'on soit partie prenante. Effectivement, le MEDEF, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on s'interroge et qu'on mène des actions. Alors, c'est vrai qu'on nous entend beaucoup plus maintenant, j'ai envie de dire, depuis Laurence Parisot, où ça a commencé un peu à bouger les lignes. Il y a 20 ans, le MEDEF, on disait, oh là là, c'est quoi le patronat? Ils sont bizarres, ces gens, ils ne nous concernent pas, etc. Alors que moi, il y a 20 ans, sur le territoire, eh ben, on a fait le pari avec un élu qui s'appelle Daniel Thébault, donc je préfère le citer parce que c'était quand même un sacré challenge, hein, c'est un ancien président de CJD, de Centre de Jeunes Dirigeants, en disant comment on peut rapprocher le monde économique des gens qui sont en difficulté. Et nous, on avait déjà inventé, avant Emmanuel Macron, si je peux me permettre, de traverser la route pour trouver du boulot. Donc, puisque nous, le MEDEF, il est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, en Palo, à Toulouse. Et on a fait le pari tous les deux de dire, ben, on va aller les chercher, les jeunes qui sont de l'autre côté. Donc, c'est moi qui ai traversé la route, en fait, pour aller les chercher. Et on a commencé comme ça, à leur dire, ben voilà, nous, on a du boulot. comment on peut faire pour se rencontrer ensemble. Donc, on a travaillé avec les collèges de l'éducation prioritaire pour aller voir les gamins de troisième en leur disant, là, toi, tu veux faire ça, mais bon, nous, on va te proposer le fait que tu puisses réussir autre chose, ouvrir tes yeux, créer ton entreprise, faire des challenges, avoir des meilleurs choix d'orientation. Parce qu'on s'est rendu compte que ces gamins dans les collèges de l'éducation prioritaire, déjà quand vous entendez éducation prioritaire, moi, ça me fait peur. Voilà. Je me dis, c'est quoi ça? L'éducation, la laïcité, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a un truc, enfin, je ne sais pas, où je n'ai pas tout compris. Donc, ça veut dire qu'on met des enfants qui sont dans un quartier, dans un collège spécifique. Why not? C'est quoi ça? Et ces gamins-là, eh bien, du coup, qui leur amène le fait qu'ils peuvent faire des choix extraordinaires parce qu'ils ont plein de talents. Ben nous, on a fait le pari de dire, eh ben on y va avec des dirigeants et des dirigeantes qui leur ressemblent. Et on va leur montrer que c'est possible. Moi, j'ai emmené un gars qui est le directeur de Berger Levrault, qui est né dans les quartiers nord à Marseille, et qui leur a dit, ben, regarde, moi, je te ressemble. Regarde ce que je fais aujourd'hui dans ma boîte. Et ça, ça nous a amené à dire, eh ben voilà, on a ouvert les yeux de ces gamins, on a pris des contacts avec ces jeunes. On leur a proposé du boulot, ils ont matché avec nous. Et en fait, on est sorti du système, donc je rejoins Karine, on est sorti de ce système de l'insertion parce qu'on a fait de la rencontre en B2B. C'est-à-dire, on lui a dit, ben voilà, nous, on propose de voir une boîte, elle a ce job, si ça te plaît, tu y rentres. Si ça ne te plaît pas, ce n'est pas grave, on te proposera autre chose. Et le bouche à oreille a fait que 10 ans après, on a créé une plateforme emploi-entreprise en plein quartier où on a décidé de faire le pari, de faire un guichet unique en disant, puisqu'on les a, on a été les chercher, ben maintenant, nous, on va y aller. C'est-à-dire, on va être présent et on va leur dire, dans cet endroit, tu pousses la porte, on te file un boulot. C'est ce qu'on a fait depuis 10 ans. Ça s'appelle la plateforme emploi entreprise. On est plusieurs acteurs dedans, donc des agilités collectives, on en a créé. On a un organisme d'insertion qui s'occupe des publics, qui s'appelle l'UCRM. On a nos quartiers du talent qui s'occupent des jeunes diplômés, qu'on appelle les NIT, ni en emploi, ni en formation, ni au travail, voilà, enfin, etc., etc., au chômage en tout cas. Et on leur a dit, tu pousses la porte, on trouve un job. Voilà. Et c'est de la rencontre. Aujourd'hui, il y a 5 ans, j'ai rencontré un zèbre qui s'appelle Moussa Camara. Et je lui ai dit, dis donc, ce que tu fais à Paris, viens le faire à Toulouse. Et avec Madani, voilà, on a monté les déterminés, on a créé l'entrepreneuriat pour mettre en lumière les gens des quartiers qui montent des business. Donc, je rejoins Fabrice quand tu dis on peut faire de l'économie sociale et solidaire en faisant du business. Ben oui, banco, au contraire. Je crois que plus on va créer de la valeur, plus on crée de la richesse, plus on crée du lien social. Donc, moi, je suis convaincue qu'au MEDEF, moi, j'ai des entrepreneurs engagés, des entrepreneuses engagées. On a changé de paradigme. L'entreprise, elle évolue. Les gens, ils évoluent. Les chefs d'entreprise, ils évoluent. Aujourd'hui, tout le monde dit, mais la société, c'est un ensemble. L'entreprise, c'est une société, déjà, composée d'individus complètement différents. Et plus ils sont différents, plus ça booste la boîte. Donc, notre objectif à nous, MEDEF, c'est bien de rassembler tous les mondes. Et aujourd'hui, on est plutôt fédérateur. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Hein. On travaille autour de l'économie sociale ou solidaire, qu'on travaille avec l'insertion, qu'on travaille avec les missions locales, qu'on va travailler avec les déterminés pour montrer justement que c'est bien un tout et qui fait qu'aujourd'hui que l'entreprise, elle n'est pas en dehors de la société. Donc, quand on parle de transition écologique, où l'entreprise elle a un impact fort, parce qu'on sait que l'entreprise elle pollue, on le sait, ça fait très longtemps, et on est là en train de se dire, bah, attends, on a pris conscience des choses, on prend conscience, donc on est en train de travailler tous ensemble pour réduire tout ça. Mais on ne pourra jamais réduire tout ça si on ne transforme pas les postes de travail, si on ne convainc pas les dirigeants à mettre des sous pour avancer sur des sujets, si on ne convainc pas les politiques, c'est-à-dire tous ceux qui nous entourent, hein, aussi pour leur dire, vous ne pouvez pas faire sans nous. Je vous donne un exemple, on est en train de travailler sur la zone franche, ici à faible émission de carbone. On va dire. Si on n'a pas un dialogue avec les politiques, comment demain, on va pouvoir avoir des collaborateurs qui vont pouvoir changer de véhicule? Ça va être compliqué déjà, parce que bientôt, ils ne pourront plus rentrer à Toulouse pour aller travailler. Voilà. Ça, c'est bien en cela qu'aujourd'hui, tout cet intérêt inclusif, on ne peut pas être chacun du côté de la rive, ce n'est pas possible. Il faut faire un ensemble, il faut qu'on puisse se parler, il faut qu'on puisse se confronter, il faut qu'on puisse échanger pour co-construire, pour que demain, ben, ce qu'on est en train de laisser à nos enfants, pour certains, en tout cas laisser à des jeunes qui sont en train de nous dire « mais vous êtes des zombies, des has-beens, vous nous laissez une planète pourrie, on n'aura plus de boulot, on n'a plus d'avenir », ben non, c'est de leur redonner du sens. Il faut leur dire « tout est possible ». Et on peut refaire autrement. Voilà ce que j'en dirais. Et je pense qu'on a commencé à se rendre... Voilà, Claire, elle a tissé une toile, là. Et ben, chaque petite araignée, là, on va pouvoir se revoir. Ceux qui sont derrière l'écran, loin, et ben, vous pourrez nous contacter. Parce que plus on sera nombreux, plus on va avancer.
Merci Fabienne. Alors vous voyez, hein, ce qui nous anime en Occitanie, j'allais dire, c'est la passion, véritablement. Vous l'avez entendu chez chacun et chacune. Fabrice, je pense que pour ton recrutement, tu peux vraiment te connecter à Fabienne. Merci beaucoup. C'est ce qui fait sens aussi. Alors effectivement, je n'étais pas prête à me faire traiter d'araignée aujourd'hui, mais, mais j'aime bien l'image effectivement de tous les liens qu'on tisse ensemble. Et c'est ce qui fait vraiment que ce type d'échange est très, très riche. Alors, deuxième partie de cette table ronde, merci d'être ici, d'être derrière votre écran ou de nous voir en replay pour ceux qui nous verront plus tard. Bien évidemment, il y aura un temps de questions-réponses si vous le souhaitez. Donc, j'ai vu que ça commençait à être alimenté ici. Et vous, intervenants, vous pourrez bien sûr vous poser des questions parce que je vous ai vu réagir quand chacun parlait. Donc, voilà, vous pourrez aussi vous poser des questions. Je vais m'adresser à Quentin et Karine. On voit avec toutes ces magnifiques initiatives en fait une autre façon d'envisager l'entrepreneuriat et l'engagement. Je voulais évoquer la volonté de ces états généraux, c'est vraiment de mettre l'accent sur la notion d'investissement social qui nous semble être la clé en fait, j'allais dire, de la réconciliation entre le modèle social, la compétitivité économique, la transition écologique et la cohésion territoriale. Selon vous, aujourd'hui, comment permettre à toujours plus de personnes de monter en compétences, de monter en capacité, d'améliorer l'employabilité, notamment dans le secteur de l'ESS? Qui se lance en premier? Karine ou Quentin, comme vous souhaitez. Karine, t'as dégainé en premier. Vas-y.
Alors, juste avant de répondre, j'ai une solution déjà pour Fabrice. Donc, ils sont 5 hommes, nous sommes 6 femmes. Donc la parité peut se mettre en place. Ils sont blancs, on est en interculturalité, en multiculturalité, voilà. Donc c'était pour illustrer un peu l'intelligence collective. Et je vais un peu poursuivre sur Fabienne, parce qu'en fait, moi très clairement en premier lieu, pour soutenir ça, il y a vraiment le principe de soutenabilité des politiques publiques, des acteurs institutionnels. Voilà, pour moi, le maillage territorial, les acteurs de l'ESS qui sont, bon, plus maintenant, hein, parce que je crois qu'on ne peut même plus les positionner à la marge, hein, ça fait 20 ans, 30 ans que les structures ESS travaillent sur des solutions très innovantes, qu'ils ont eu le temps d'expérimenter, qu'ils ont eu le temps d'évaluer et de voir qu'en fait, c'était des fonctionnements qui... c'était en fonction, en fait, hein, ça fonctionnait très bien. Donc, je pense que le premier principe pour soutenir la montée en compétences, c'est déjà ce maillage-là et d'être soutenu par les politiques publiques. Ça ne passera pas de toute façon par ça. Alors après, en termes de solutions, eh bien, par exemple, bon, là, je vais citer, c'est la multicasquette hein, qui fait que, mais par exemple, le centième singe hein, vient de créer sa SCIC, hein, Société coopérative d'intérêt collectif, et du coup, qui intègre en fait différents collèges et différentes parties prenantes. Et dans ces parties prenantes, il y a les institutions. Voilà. Et donc ça, c'est une vraie opportunité de se mettre avec, a priori, des intérêts divergents, parce qu'on parle de convergence, mais on peut avoir des intérêts divergents, des visions différentes, et en même temps, comme tu le disais, Claire, d'avoir un projet qui nous dépasse et qu'on choisit. Et ça, cet avantage-là, dans des formes juridiques nouvelles, enfin, qui ne sont pas si nouvelles que ça, mais en tout cas, là, c'est en train de se propulser, les SCOP, les SCIC, c'est une façon de repenser, de revitaliser les territoires en mettant en place le politique, le citoyen, les bénéficiaires. Et alors, après moi, de mon point de vue, c'est de partir sur les besoins du territoire. Voilà, Fabienne qui traverse la route, c'est exactement ce concept-là. C'est, on va au plus près des besoins. Donc ça, c'est pour moi le premier principe, la soutenabilité. Et puis, bien évidemment, quand j'ai travaillé le sujet, j'en ai noté un deuxième. Le deuxième, c'était pour moi le regroupement des acteurs. Alors bien sûr, hein, ça paraît un peu un lieu commun, mais se regrouper, c'est pas si inné que ça, en fait. On peut là, voilà, comme aujourd'hui, en table ronde, on voit de suite les solutions qui peuvent être mises en place, mais après, ça demande du lien, de la réciprocité et de l'engagement. Et ça, l'engagement, faut vraiment l'incarner. C'est du faire, en fait. C'est du travail et du travail de... Ben, pour que ce soit durable à long terme. Et alors, moi, ce que je prône, c'est le mode projet. Voilà. Il faut qu'on vienne travailler vraiment sur des structures mobiles, dites circonstancielles, éphémères, qui, sur des petites structures, comme dirait Yann Le Bossé, des petits pas proximales, en fait, et de voir, en fait, en fonction de chaque ressource qu'on a, de les mutualiser. Après... un exemple là qui me vient, moi j'avais travaillé il y a 2-3 ans sur un dispositif qui était assez intéressant, c'est les PWEC, les programmes opérationnels emploi compétences, qui viennent vraiment mailler au bénéfice des publics en insertion et notamment très éloignés de l'emploi. Moi j'avais participé et collaboré et coordonné un dispositif de PWEC à visée de référent numérique pour former sur les métiers du numérique. Et on avait vraiment travaillé la question de l'inclusion des femmes en particulier. On va faire des acronymes, mais il y avait les NITS, maintenant il y a les STEM. En fait, c'est les femmes voilà, qui sont très peu représentées dans les métiers du numérique. Femmes qui sont jeunes femmes, jeunes filles, donc on peut aller loin sur les scolaires, mais c'est vrai que l'accès au numérique, aux métiers, des sciences, des techniques, des mathématiques sont encore, malgré tout encore au XXIe siècle, pas représentées. En fait, les femmes, les filles ne sont que très peu représentées. Et donc, pour travailler sur cette fracture numérique, c'était très important dans ce dispositif d'inclure un quota de femmes aussi pour pouvoir faire en sorte de ne pas les laisser à la marge. Donc voilà, moi les montées en compétences, elles se font sur du maillage au plus près du territoire, sur des choses qui ne sont pas complexes, alors qui pourraient l'être, mais la complexité en fait elle est toute relative, traverser une route c'est pas très complexe en fait en soi, c'est juste une question d'envie et surtout d'aller, de oser, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que je dis souvent quand je me trouve sur des strates un peu plus politisées, on va dire. C'est, je crois qu'il faut oser l'expérimentation. Il n'y a pas, en fait, il faut arrêter d'avoir peur de se planter, parce que de toute façon, pour justement monter en compétences à plus grosse échelle, il faut tenter des petites expériences. Je reprends encore l'idée de la PWEC, mais nous, on est parti en 2018 sur une expérimentation de 12 personnes. L'année suivante, force de l'insertion derrière, de vraiment de la puissance qu'il y avait eu dans ce dispositif, on est passé à 100 sur la région Occitanie. Donc voilà, il n'y a pas de petits pas en fait.
Merci Karine, on laisse la parole à Quentin. J'ai vu Cécile ensuite que tu levais la main. On viendra vers toi. J'allais justement poser la question de savoir s'il y avait des gens qui voulaient réagir. Donc Cécile sera après Quentin. Merci, Quentin à toi.
Oui, bien sûr. Nous, chez Hector, typiquement, on a commencé en étant avec des statuts juridiques très traditionnels de l'ESAS. Je connaissais moins bien le milieu de l'ESS. Donc, je pense qu'il y a effectivement encore un besoin d'en parler et de démocratiser. Nous, on a fait le choix, du coup, en découvrant que finalement, on défendait des valeurs qui étaient très bien inscrites dans l'ESS assez naturellement. Donc, on s'est rapproché et du coup, on a récupéré les agréments ESUS qui permettent de dire qu'Hector, le collecteur, maintenant, on fait aussi partie du coup de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, nous, on est encore une jeune entreprise. Ça fait un peu plus d'un an qu'on a été créé, qu'on opère sur Toulouse. Donc, à notre échelle, en fait, on se pose des questions au fur et à mesure du cycle d'avancement. À quel moment, nous, on peut agir? On sait qu'on ne peut pas tout lancer d'un coup et que ça va se faire étape par étape. Et une des premières étapes qu'on a fait, on a eu cette opportunité, c'est qu'une partie du matériel qui est fabriqué et utilisé par Hector Le Collecteur, on le fait en partenariat avec des centres de réinsertion. Et du coup, c'est pour des personnes qui sont détenues en prison et qui, en fait, ont la possibilité pour mieux préparer finalement leur retour à la vie normale et finalement cette notion de deuxième chance de travailler dans des ateliers de menuiserie. Et il s'avère que finalement, les plans de ce qu'on faisait comme meubles en bois pour nos coffres et pour nos clients correspondaient à une partie des apprentissages, de leur apprentissage. Et donc, du coup, on s'est inscrit dans cette démarche qui nous semblait intéressante et qui était un premier pas pour nous dans plusieurs qu'on voudra mettre en place prochainement. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces personnes qui peuvent travailler dans ces ateliers, il y en a qui passent des CAP, des bacs pro en menuiserie et qui acquièrent des techniques qui leur permettent de se relancer une fois qu'ils sortent de leur période de détention. Et ensuite, on s'aperçoit de manière plus générale qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers à inventer dans la gestion du déchet. On parle des fois de maître composteur, de spécialiste en méthanisation. C'est des choses qui sont un peu nouvelles et qui, du coup, nous, on est là aussi pour démocratiser cet accès, montrer qu'il y a des nouveaux métiers, des nouvelles formations. Et que, du coup, avec Hector, on est très motivés pour accompagner toutes les personnes qui souhaitent en apprendre plus sur ces métiers-là. Absolument.
C'est super intéressant de faire appel à ce type de public. Et du coup, vous voyez chez Hector, prochainement, justement, former des gens, comment dire, accompagner sur ces nouveaux métiers dont tu étais en train de parler.
Oui, en tout cas, c'est des sujets qu'on souhaite mettre en place à terme chez Hector. Je n'ai pas encore la temporalité exacte quand on va
Bien
le faire.
Sûr.
Mais nous, effectivement... Je pense que les personnes qui sont éloignées de l'emploi socialement parce qu'elles ont eu des parcours de vie pas toujours évidents ou qui sont issues de quartiers qui favorisent pas en fait de se retrouver dans de bonnes situations, c'est des sujets qui nous parlent et qu'on aura envie de défendre en plus des enjeux écologiques que l'on défend déjà. Et on essaye justement de voir comment dans les métiers, dans les compétences, dans les expertises qu'on a besoin, comment on peut amener des personnes sur ces sujets-là, absolument.
Merci beaucoup Quentin. Donc Karine, tu nous parlais vraiment de l'importance du maillage territorial et on va dire voilà des institutions, des différents acteurs, aller vers les publics éloignés de l'emploi. Pour toi Quentin, Cécile, tu voulais réagir, on t'écoute.
Oui, je voulais à la fois réagir et interroger les intervenants parce que les entendre, vraiment, ça me ravit en fait parce que j'entends et ce que j'entends de plus en plus en fait, c'est cette préoccupation de se soucier, alors ce qu'on appelle chez nous la performance globale. Mais Claire, c'est aussi une notion qui t'est très familière, mais cette idée avoir un impact, c'est se soucier de son environnement, de son impact sociétal, alors, et bien sûr de sa performance économique, et l'entreprise doit rester vivante, mais aussi donc, de son impact social, et qu'il y a un équilibre, un juste équilibre à trouver entre toutes ces notions pour pouvoir... devenir une entreprise qui... alors, bon, j'utilise la notion d'entreprise citoyenne. On a parlé de politique. J'aime cette idée de politique qui ne soit pas politique politicienne parce qu'une entreprise, parce que nous sommes des acteurs de la cité et que c'est ça qui en fait aussi tout l'intérêt. Et donc, j'ai entendu la préoccupation de Fabrice qui disait « Nous, on a une activité qui a un impact, qui a un impact… » sur la santé, on parle du sport, mais nous, dans notre organisation même, nous voudrions aussi aller plus loin. C'est une volonté, c'est un enjeu aussi. Et je pense aussi que c'est un enjeu de survie hein, pour l'entreprise. On entend beaucoup l'entreprise de demain sera une entreprise engagée ou ne sera plus ou n'existera plus. Et donc cet aspect un peu 360, on l'entend beaucoup, c'est-à-dire que je m'intéresse à l'environnement, mais je vais aller chercher les jeunes pour Véronique parce que tout ça, c'est inextricable. C'est vraiment quelque chose… Voilà, je vais peut-être faire un pont, pardon Claire, mais avec Clotilde, qui va peut-être aussi justement parler de cette notion du numérique parce que dans le 360, je trouve que… Cette question du numérique, elle est au cœur aussi de cette question de l'inclusion.
Merci beaucoup, voilà. Cécile.
Une réflexion, une question, des questions, une sollicitation. Je fais un paquet.
Merci beaucoup pour ton intervention. Clotilde, est-ce que tu veux intervenir maintenant?
Ah bah écoute, avec grand plaisir. Donc, pour me présenter, Clotilde Maury, je travaille à l'association La Mêlée. La Mêlée, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, c'est une association sur l'Occitanie qui a deux tiers-lieux à Toulouse. Donc là, aujourd'hui, je suis dans l'un d'eux, donc c'est pour ça que j'ai ce magnifique masque, hein, je suis désolée. On a aussi un pôle à Montpellier. Et donc, c'est vrai que c'est une association en fait, qui regroupe des acteurs autour de sujets du numérique et de multiples sujets. En fait, aujourd'hui, l'association elle a pas mal grossi et on a énormément de thématiques. Et on a notamment des thématiques d'inclusion numérique et des thématiques aussi qui sont en lien avec le numérique responsable. Parce que c'est vrai que même si on n'est pas expert, on le sait, il faut qu'on retravaille des choses et on est un peu sur de l'amélioration continue. Et donc, moi, je me reconnais un peu dans les discours de chacun de vous. Donc, notamment, je crois, Fabrice, c'est toi qui disais que tu étais très contente d'être là ce soir parce que c'est un peu de l'amélioration continue. Moi, je le vis un peu comme ça. Je suis assez impressionnée par tous vos parcours et je me dis, mais c'est génial parce que justement, à La Mêlée, on a envie de regrouper des gens qui sont... aussi passionnant que vous et je pense qu'il y a plein de choses à faire ensemble et vraiment c'est super chouette, donc j'ai pris aussi plein de notes je pense que des sujets comme l'inclusion numérique, nous on a un hub qui s'appelle RINOC qui est là pour en fait fédérer des acteurs de l'inclusion numérique dans un but aussi diminuer cette fracture qui est liée au numérique. Et en face, il ne faut pas oublier que ça, c'est l'aspect social. Il y a aussi l'aspect éthique du numérique. Et puis, il y a aussi l'aspect écologique du numérique. Donc, il y a vraiment un vachement de sens et, avec tout ce qui a été dit. Et donc, on essaye un peu avec avec de la promotion, avec de la sensibilisation. Donc, on fait aussi des événements. Et puis, on essaye un peu d'être partenaire de ce genre d'événements aussi. Donc, bravo, Pierre, d'avoir réuni des personnes comme ça qui sont aussi, aussi passionnantes ce soir. Et puis, bravo aussi en tant que d'arriver à avoir des sujets, à booster un peu ces sujets-là, à parler de ces sujets, à montrer qu'il y a des choses qui se font et à mettre surtout en cohésion des personnes pour pouvoir créer des synergies qui sont ultra positives.
Merci beaucoup Clotilde. Alors, on va continuer en parlant jeunesse. Alors, on a tous plein de casquettes ici. Karine, tu évoquais tout à l'heure 100 000 entrepreneurs. Madani, tu es présidente des Déterminés. Je suis moi-même présidente des Entrepres en Occitanie-Pyrénées, responsable jeunesse au CJD. Donc voilà, on est un petit peu tous sur ces logiques de jeunesse. Et donc, question surtout pour Véronique, Samuel et Madani. La sensibilisation des jeunes générations est fondamentale, comme nous le savons. Fabienne nous l'a expliqué avec ardeur, avec passion tout à l'heure. Donc, accrochez-vous pour réussir à répondre à cette question. Comment les toucher positivement, les jeunes, et comment leur donner envie de s'engager dans cette voie concrètement? Véronique, tu as déjà dégainé, vas-y.
Ben, moi, j'agis dès la maternelle. Donc, en fait, j'interviens dès la maternelle avec des ateliers où, justement, je fais prendre conscience aux enfants du rôle qu'ils auront à jouer demain dans notre société. Et je parle, justement, de tous les métiers qui n'existent pas. Et je leur demande déjà à eux d'inventer des métiers parce que la plupart des enfants, évidemment, ils veulent protéger tous les animaux, tous les hérissons, les escargots, etc. Donc, forcément, on part sur... Et j'ai un projet, en fait, de faire un manifeste là-dessus avec toutes les collectes d'informations que me donnent de la maternelle jusqu'au Master 2, les étudiants et les enfants, et les primaires, les collégiens, les lycéens, etc. Parce que c'est incroyable, j'ai les carnets pleins de métiers qui n'existent pas. Et donc, je trouve ça exceptionnel parce qu'effectivement, quand je vois malheureusement le rapport du GIEC, je me dis, ils n'ont pas lu le rapport du GIEC, j'en suis sûre. Mais par contre, ils ont déjà trouvé les solutions pour y répondre. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des choses comme ça. Et moi, je fais beaucoup j'organise, on appelle ça des hackathons, hein, notamment dans les écoles de commerce. Et donc, c'est pour ça que j'ai monté tout à l'heure, parce que je vous en parlerai après. Et c'est vrai que je l'ai fait vraiment, il y a une problématique, il y a une solution. Et quelle est la solution? Et en fait, en les amenant eux-mêmes à proposer des alternatives, eux-mêmes à proposer des solutions, eh ben, ça leur donne envie de s'engager et ça leur donne envie de créer justement, soit de rentrer dans ces métiers malheureusement qui ne sont pas assez nombreux. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup d'associations à essayer. C'est très bien ce que fait Hector, le collecteur, parce que moi, j'ai essayé le compost et effectivement, j'ai eu que des rats et des souris chez moi. Donc, du coup, j'aimerais bien être formée aussi. Je ne m'en sors pas. Voilà, donc j'ai aussi, je suis en train de me former à l'apiculture, j'ai aussi mis des ruches. Enfin, voilà, donc je sais qu'il y a plein de gens qui doivent nous former parce qu'on a tous envie de se former. Et donc, je pense que c'est important. Et c'est vrai que Samuel qui est ici, le but aussi, c'était qu'il rencontre des acteurs qui sont autour de la transition écologique. Et donc, je te laisse parler, Samuel, parce que voilà, ça peut donner des envies aussi.
Je pense que c'est un point important, autant dans la façon d'inciter les jeunes générations à être plus responsables. Et c'est aussi un avantage à être plus responsable. Il y a une sorte de retour vers la communauté qu'on peut observer, notamment avec ce que vous faites, Madani, il me semble. C'est quelque chose vraiment, c'est un angle intéressant qui, je pense, apporte un peu de fraîcheur, un petit peu comme l'événement que vous avez organisé, quelque chose d'un petit peu nouveau vis-à-vis de la moralisation avec laquelle on avait un peu trop l'habitude, je pense. Et la création,
oui,
absolument. Et du coup, c'est remplacé aujourd'hui par la création de liens sociaux.
Et cette communauté qui est donc justement une communauté maintenant qu'on connaît des réseaux sociaux, eh ben on crée une communauté de terrain et d'expérience. Et c'est vrai que c'est ce que disait tout à l'heure. J'ai perdu son prénom. Karine, non, c'est pas Karine, non, je sais plus. Enfin bref, sur la mêlée, pardon. Et donc je disais, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est que il y a effectivement cette inclusion numérique, mais les jeunes, on crée du lien. Et comme on crée du lien, on crée des communautés et on crée des communautés intergénérationnelles, parce que tu as pu voir dans la Green Team, il y avait tous les âges. Mmh. Et il y a aussi des personnes retraitées qui viennent nous rejoindre et qui sont bénévoles et qui viennent avec leurs petits-enfants. Et donc, il y a vraiment, on est vraiment des passeurs, parce qu'en fait, voilà, et je pense que c'est vraiment par l'exemple, par l'expérience, par le terrain, par l'expression et la libre expression de cette page blanche et de dire, on va recréer le système. Et je pense que c'est ça qui est important. Et moi, donc, je suis contente que Samuel soit là, parce que c'est vrai que ça a été l'une des personnes les plus impliquées de la préparation pendant et après le festival. Et c'est vrai que moi, je rêve qu'une chose, c'est de trouver les moyens d'embaucher Samuel à la planète.
Écoute, c'est pareil, la commande est passée à l'univers, si je puis dire, Samuel.
Voilà,
tu disais quelque chose de très important, tu l'as dit deux ou trois fois, cette notion moralisatrice, en fait. Et je pense que c'est super important de le souligner, parce qu'effectivement, et tu l'évoquais aussi, Véronique, tout à l'heure, on a merdé, on a fait de la planète ce qu'elle est aujourd'hui, on a chacun notre responsabilité, on est bien tous d'accord là-dessus. Et effectivement, si on arrive avec un discours moralisateur, on n'embarquera jamais les jeunes, c'est pas possible. Et je te remercie vraiment de l'avoir souligné, parce que je pense qu'il y a des personnes un peu plus âgées, je ne me mets pas dans le lot, pensent que rappeler toutes les bêtises qui ont été faites, ou que maintenant il faut faire attention parce qu'il ne faut pas déconner, c'est effectivement pas du tout le bon angle d'attaque. Y aller sur cette ouverture comme vous le faites avec I Love Planet, ça me paraît vraiment une très belle solution. J'adorerais, si jamais tu en as deux ou trois en tête, Véronique, des métiers qui t'ont été donnés par les jeunes, ces fameux métiers qui n'existent pas. Est-ce que tu as souvenir d'un ou deux métiers
Alors, il y a beaucoup de jeunes sont très portés sur les data centers.
Okay.
Donc, ils aiment créer de la climatisation à partir des data centers. Donc, ils sont beaucoup dans l'énergie, beaucoup de métiers autour de l'énergie liés à, ça rejoint un petit peu Cyclo Power Factory. C'est pour ça que tout à l'heure, je me disais, c'était drôle, parce que je pense que justement, j'aimerais bien le faire intervenir auprès de certains jeunes avec qui je travaille, parce qu'ils disent souvent, il y a trop d'énergie qui se perd, donc il faut créer des collecteurs d'énergie et il faut créer des climatisations à partir des data centers. Voilà. Et puis, beaucoup beaucoup liés aux animaux, voudraient créer des métiers qui soient des personnes qui font des inventaires tous les jours des insectes, des escargots, etc. pour pouvoir tu vois, en permanence avoir un baromètre, dire sur mon quartier, combien tu as compté d'escargots aujourd'hui, etc. Donc, ils disent qu'il faudrait qu'on compte les espèces et qu'on les protège, bien sûr. Après, beaucoup liés à l'alimentation. Alors, beaucoup voudraient créer des métiers qui seraient, alors je ne sais plus le nom parce que je l'ai écrit sur un petit carnet, mais ça aurait été, j'aurais dû le prendre, mais sur les frigos. En fait, ils aimeraient avoir une personne qui puisse, en gros, veiller à ce qu'il n'y ait pas de gaspillage alimentaire dans les frigos, et donc qu'il y ait cette mission, en gros, d'aller taper chez les gens et faire du recensement de frigos et savoir si les frigos ils sont pas trop pleins et si voilà. Donc c'est des choses assez drôles, mais en même temps, on se dit que il y a tellement d'applications qui se mettent en place sur des choses comme ça que ce n'est pas totalement idiot. Voilà.
Non, mais c'est super intéressant d'entendre justement sur quoi se porte leur centre d'intérêt. Et on est beaucoup sur cette notion, effectivement, d'éviter le gaspillage et la conscience de notre surconsommation. Merci beaucoup, Madani. À toi de passer après eux. Je te rappelle la question, hein, sensibiliser les jeunes, tu avais pigé le concept. Comment leur donner envie de s'engager dans cette voie?
Ouais, franchement super passionnant. J'étais scotché là justement sur les idées des jeunes et tout ça. Moi, ça me passionne. D'ailleurs, je suis intervenu aussi auprès de 100 000 entrepreneurs dans un lycée pour témoigner aussi, pour apporter ma petite pierre à l'édifice. Donc, c'est vraiment un plaisir et un honneur à chaque fois de participer à ce type d'initiative. Et bravo aux petits jeunes qui ont des idées magnifiques à chaque fois. Et moi, c'est vrai que c'est un pur kiff pour moi de rester avec eux et de les écouter parler. Je vais rejoindre un petit peu aussi ce qu'a dit Fabienne tout à l'heure et merci Claire aussi pour l'introduction concernant les déterminés. C'est vrai qu'aujourd'hui je suis un acteur engagé aussi dans les quartiers prioritaires et dans les zones rurales à travers l'association Les Déterminés pour laquelle je suis coordinateur de territoire aujourd'hui. Alors je ne suis pas le président, ce n'est pas moi qui ai créé l'association, mais en tout cas c'est moi qui coordonne un petit peu tout dans la région Occitanie. Rapidement, en fait, l'association Les Déterminés aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on va sélectionner, on va former et on va accompagner en fait toutes les personnes, hommes et femmes confondus, désireuses de se lancer dans l'entrepreneuriat. On va collaborer évidemment avec tout l'écosystème local, donc les structures publiques, les associations de quartier, les partenaires que je ne vais pas citer parce que sinon ça prendrait quand même beaucoup de temps. Et on va créer en fait ce qu'on appelle des passerelles entre les porteurs de projets et le monde économique. En termes de sensibilisation, nous aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vraiment, ça fait depuis 2015 qu'on existe et on a déjà sensibilisé presque 4000 personnes aujourd'hui à l'entrepreneuriat. On a formé et accompagné plus de 600 personnes, donc des hommes et des femmes qui ont été accueillis dans le programme. C'est un programme qui dure 6 mois, on les accompagne pour qu'ils rentrent avec une idée et ils sortent avec une entreprise. D'ailleurs, pour la petite histoire, je suis moi-même venu en tant que porteur de projet chez Les Déterminés avec la casquette « J'ai une idée ». Et je suis ressorti de 6 mois de formation avec une entreprise. Donc, c'est bien la preuve que ça fonctionne bien. Et franchement, félicitations à tout ce qu'ils font aujourd'hui, les déterminés. Aujourd'hui, il y a plus de 300 entreprises qui ont été créées à travers les déterminés. C'est quasiment autant d'emplois qui ont été créés aussi sur tout le territoire. Et il y a un chiffre qui va intéresser plus d'une personne ici, c'est que plus de 63% des entrepreneurs, eux, sont des femmes. Comme quoi, vraiment, il y a vraiment une appétence à ce niveau-là, et environ voilà, une centaine d'entreprises qui sont actuellement, au moment où je vous parle, en cours de création. C'est comme ça, en fait, aujourd'hui, qu'on va accompagner les porteurs de projets. Et c'est vrai que la sensibilisation, nous, on l'a fait essentiellement dans les quartiers prioritaires et dans les zones rurales, parce qu'on a estimé que c'est peut-être dans ces endroits-là aussi où il y avait le plus de difficultés à rentrer dans un écosystème entrepreneurial, où il manquait justement beaucoup de choses, où il y avait un réel besoin. Et on intervient énormément dans ces zones-là, et on accompagne beaucoup de personnes. D'ailleurs là on relance encore une prochaine promotion, on en fait une tous les 6 mois. Je vous parle que de Toulouse parce que c'est vrai qu'on intervient partout en France, et là en tout cas le sujet qui me concerne aujourd'hui, moi personnellement, c'est l'Occitanie, donc je vous parle de Toulouse. Éventuellement on pourra parler une prochaine fois de Montpellier aussi.
Merci Madani. Du coup, en nous présentant Les Déterminés, tu t'expliques qu'il y a des structures comme Les Déterminés qui permettent justement aux jeunes d'expérimenter des projets. Tu l'as dit toi-même sur ton parcours, tu es arrivé avec une idée, tu es sorti avec une entreprise et maintenant tu es effectivement… Alors, c'est vrai que je t'ai affublé du terme président, bon, que coordinateur local. Ouais. C'est ce qui est super important et on a évoqué plein d'associations qui sont déjà représentées autour de cet écran. Pour donner envie aux jeunes de s'engager, et Samuel nous l'a bien expliqué tout à l'heure, il faut aller essayer, il faut aller expérimenter, il faut aller rencontrer les gens, dépasser les a priori qu'on peut avoir par rapport à tout ceci. Mais on est bien d'accord que c'est sur le faire, et ça, je rejoins ce que tu disais, Karine, aussi tout à l'heure, hein, c'est sur l'agir, le faire agir qu'on peut arriver à sensibiliser les jeunes par rapport à tout ceci. Est-ce que quelqu'un veut intervenir aussi sur la question de la jeunesse ? Fabienne, bien évidemment. Vas-y.
Je pense qu'il est important aujourd'hui de savoir, quand on dit les jeunes, en fait, il y a plusieurs jeunesses au pluriel.
Tout à fait.
Et je pense que c'est là où il y a un changement, hein, je trouve, moi, depuis quelques années, où on prend conscience que le jeune qui était hier n'est plus le jeune d'aujourd'hui, et tant mieux. Et c'est important, et nous, on m'élève, justement, on a pris le sujet à bras-le-corps. On a créé une commission jeunesse au niveau national, au pluriel, pour bien faire comprendre aux dirigeants d'entreprise et aux dirigeantes d'entreprise qu'est-ce que c'est que ces jeunes, au pluriel, toute cette jeunesse qui existe, qui a des difficultés pour certains, pour d'autres moins, comment on doit les prendre en compte avec toute leur constitution, quoi. Et quand je rejoindrai Madani, puisque moi j'ai un peu de recul, hein, sur l'histoire des quartiers, j'ai envie de dire, moi j'en viens des quartiers en banlieue parisienne. Nous, quand on avait 15 ans, on disait, non mais attends, regarde-moi, moi demain je vais être là. On ne se posait pas la question, on poussait les portes, voire même on mettait des coups de poing à l'époque. Enfin, on était un peu too much quand même. Aujourd'hui, moi, quand je vois un jeune dans le quartier, je lui dis, mais qu'est-ce que t'as envie ? Mais je n'ai pas de réponse, forcément. Voilà. Et donc, à un moment donné, moi, ce qui m'interroge là-dessus, c'est, et je crois qu'il faut être conscient de ça aussi, c'est qu'on a certains jeunes qui ont le déterminisme social qui leur est collé au basque depuis qu'ils sont nés, hein, et ils ont du mal à amener la transformation. Donc, nous, les acteurs qui sommes autour de la table, on a un rôle à jouer là-dessus. Quand on a fait le pari des déterminés, arrivé à Toulouse, hein, on passait pour des extraterrestres un peu, hein, parce que, mais pourquoi ça ? Voilà. Et aujourd'hui, ça a une résonance. Et je crois qu'il y a ça à prendre en compte, c'est qu'on a des jeunesses au pluriel, et il faut faire le distinguo, quoi, parce que sans ça, on passera à côté des choses, quoi. Et ça, c'est une vraie réalité, et je trouve que dans les structurations d'accompagnement de ces jeunesses au pluriel, on n'a pas forcément les bons... il va falloir qu'on travaille encore pour monter en compétence sur ça.
Je te rejoins totalement, Fabienne. Merci beaucoup d'avoir souligné ça. Effectivement, c'est vrai qu'on dit les jeunes au sens global. Nous avons effectivement différentes jeunesses, et que ce soit sur des logiques, j'allais dire, sociales et territoriales, où ce n'est pas du tout les mêmes choses. Parce que en t'écoutant, je repensais aussi aux personnes avec lesquelles Fabrice travaille, des mecs blancs, qui sont dans des lycées de beaux quartiers et ne voient pas non plus où aller. Plus tard, où j'entends les parents dire bah, « nous, on l'a inscrit à tel ou tel concours parce qu'il faut qu'il fasse quelque chose », et où ce n'est pas mieux pour eux. Véronique, je crois que c'est toi tout à l'heure qui parlait de génération sacrifiée. Et effectivement, et voilà, y a tout ceci qui fait mal. Donc, merci infiniment, Fabienne, d'avoir remis le regard sur cette pluralité, j'allais dire, de la jeunesse. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, on n'est pas équipé pour répondre à ces différents types de jeunesse. Donc, on peut tout apprendre ensemble. Clotilde, tu voulais intervenir ?
Oui, merci. En fait, c'est vrai que je voulais rebondir un peu à ce que tu disais, Fabienne, parce que je suis complètement en accord avec ce que tu dis, et notamment, je réalise aussi, parce que je le vis aussi, qu'il y a énormément d'éco-anxiété, et c'est pour ça, d'angoisse même en général, et c'est pour ça que Véronique, moi, je trouve génial ce que tu fais, et on aimerait bien avoir cette approche aussi à la mêlée, c'est de parler un peu de numérique responsable et d'écologie au sens large, de façon beaucoup plus positive. Parce qu'on se rend compte qu'à force d'aller dans une réalité qui est hyper violente, ça crée des freins psychologiques qui créent des réels blocages. Et ça me fait penser aussi en lien avec des sujets comme femmes et numérique. Donc, c'est vrai qu'à la mêlée, par exemple, on a pris le choix de travailler sur ce sujet en mettant des actions. Et en fait, on s'est rendu compte qu'aussi une des actions, c'était d'aller sensibiliser les parents. Parce que ces freins, en fait, ils viennent aussi des parents qui pensent que des métiers de la tech, par exemple, ne sont pas faits pour leur fille. Et donc, c'est quand même un métier qui serait que face à l'écran et qui est quand même super macho. Et donc, il faut aller tout le temps lever des blocages, comme ça, lever plein de freins psychologiques. Et donc, voilà, c'est ce travail comme ça qu'on peut mettre en place par des actions très concrètes, par des commissions, par ce genre d'action et de ce genre d'échange qu'on a aujourd'hui qui, je pense, peut permettre de créer un futur dans un monde dans lequel on aura plus envie de vivre et dans lequel les jeunes auront envie d'avoir le boulot qui leur plaît et un boulot qui aura du sens.
Merci beaucoup, Clotilde. En t'écoutant, je pense, et j'y pensais aussi tout à l'heure quand Karine parlait, bien sûr, je ne sais pas si vous connaissez le SAS des hackeuses que fait Simplon. Donc, cette promo de femmes éloignées de l'emploi, voilà, qui se fait tous les ans et qui permet aussi justement de faire tomber ces barrières de la tech, le numérique, ce n'est pas pour les femmes. Donc, voilà, il y a plein de belles initiatives qui existent. Alors là, forcément, tout le monde réagit. Véronique, tu avais relevé la main, vas-y. Tu as 30 secondes, vas-y.
Parce que Clotilde a aussi réagi. C'est, en fait, par rapport à ce que disait Fabienne, bravo Fabienne pour ton énergie, j'adore. Et donc, du coup, moi, je dis que les jeunes, à chaque fois, ils me disent, madame, ce qu'on veut, c'est on est en quête de sens. On veut donner du sens à notre vie. On veut se sentir utile. On veut s'épanouir dans notre vie parce qu'on ne veut pas être comme nos parents. On ne veut pas subir notre vie. On veut la vivre pleinement. Et je pense qu'il y a vraiment cette notion de pleine conscience que nous n'avions pas et que cette génération a. Voilà.
Merci beaucoup. Super de le souligner. Karine, à toi, je t'en prie.
Oui, alors moi, j'ai toujours eu un peu de mal sur le questionnement de la catégorie des jeunes, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on le voit surtout dans l'éducation nationale, mais où j'interviens de temps en temps en analyse de pratique auprès des profs. En fait, aujourd'hui, les jeunes, ils sont sujets, en fait. Un individu égale sujet, égale auteur, égale acteur. Et en fait, c'est vrai que nos systèmes sont pensés de manière encore très, très verticale. Et moi, je reviens toujours aux besoins, en fait, des individus. Ce sont des enfants. Nous, on a pour objectif, en tant qu'adultes, de les protéger, d'être dans une intelligence protectrice vis-à-vis d'eux. Mais par contre, il faut mettre à même hauteur. Et tant qu'on ne le fera pas et tant qu'on ne pensera pas comme ça, ça créera toujours cette espèce de dissonance et on sera, en tout cas, nous, toujours sur des systèmes décalés. Et on voit clair, on l'a vu la dernière fois en table ronde avec 100 000, ils ont des idées merveilleuses, il faut juste leur laisser la capacité d'y croire. Sauf qu'aujourd'hui, moi je suis maman d'ado et je peux vous dire que c'est assez sympa de voir en fait que le système qui les porte est encore pensé de manière assez verticale. Donc moi, pour la montée en compétences, je pense aussi à la montée en compétences des acteurs institutionnels, des profs. Enfin, voilà, il y a toute une espèce d'émergence et de cercle vertueux qui doit se mettre en place. Et en plaçant l'enfant futur en devenir là au centre. Et toutes les politiques doivent être conscientisées et réfléchies dans ce sens. Parce que la pleine conscience, en fait, c'est juste nous qui l'oublions. Eux, ils l'ont. Voilà. Ils sont d'ailleurs sur des super métiers. Ça se trouve que ce serait totalement possible. Petite anecdote, ça c'est juste pour rire. C'est moi, ce matin, ma dernière, elle voulait réinventer une machine dans le temps pour réanimer les mammouths. Donc, voilà, c'est tout ça, il faut écouter, en fait. Il faut vraiment entendre et prendre au sérieux. Et laisser cette possibilité d'imagination qui va faire qu'en fait on va permettre l'autonomisation et on va leur permettre tout simplement d'inventer un monde qui n'existe pas encore tout à fait. Voilà.
Merci beaucoup.
C'était mon cri de.
C'était ton cri de on sauve les mammouths, d'accord, très bien.
Voilà.
Merci. Sauvons les mammouths. Allez, Cécile, vas-y.
Oui, je voudrais pas dire que les vieilles générations se retrouvent dans les mammouths. je le prends pas comme ça. Non, ce que je voulais vraiment prolonger en fait ce que disait Karine, ça me paraissait très important. Mais et donc du coup dire que oui, il faut mettre les jeunes au centre. Oui, c'est la priorité, mais il faut pas opposer non plus les générations. Et si on veut que les jeunes puissent s'épanouir, être entendus, laisser émerger leur créativité, il faut aussi que les générations qui sont en place, qui tiennent les institutions, qui sont souvent aussi aux manettes sur les postes politiques, il faut aussi que cette génération-là, elle soit formée, qu'elle entende les enjeux, qu'elle entende aussi qu'il faut passer la main, qu'elle peut elle-même entendre ce que dit la jeunesse et accompagner cette émergence. C'est ce que fait Véronique dans sa démarche, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que je voulais insister sur le fait que oui, les jeunes, le jeune, chaque jeune, oui, mais les autres générations aussi, l'enjeu, il est là pour moi, il est dans cette collaboration qui va pouvoir se faire entre toutes les générations.
Merci beaucoup, Cécile, de le préciser. Effectivement, on le voit, le transgénérationnel est extrêmement riche. Alors, si vous êtes d'accord, je vais passer à la dernière question que j'avais à poser. Véronique, je te donnerai la parole après. C'est bon pour toi ?
C'est bon pour moi.
OK. Justement, Fabrice, pour toi, cette dernière question. Tu as vu à quel point l'Occitanie t'accueille à bras ouverts. Hein. Chaque personne a déjà plein de solutions à te proposer. Oui. Voilà, on va t'accueillir. L'investissement social, c'est avant tout faire confiance à l'humain. Tu nous faisais part de ta situation particulière tout à l'heure. Face à la grande démission, aux crises économiques et financières, nous sommes en pleine transition avec des S. Comment la pratique sportive, à quelque niveau que ce soit, en entreprise, dans les espaces dédiés comme centres de coworking ou les tiers-lieux, peut-elle contribuer à redonner du sens aujourd'hui ainsi qu'une posture plus responsable ?
Ok, alors bon, je sais que j'avais deux moments où je devais intervenir. Je crois que j'ai peut-être un peu trop dit de choses lors de ma première intervention. Mais basiquement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, le sport, quelle que soit son origine, son parcours, son niveau d'études, son niveau socio-culturel, tout le monde peut faire du sport. Et le sport, ça a plein de vertus. Et déjà, c'est bon pour la santé, c'est ce que je disais. Si on est en bonne santé, on se sent bien dans son corps. Si on se sent bien dans son corps, on se sent bien dans sa tête. Si on est bien dans sa tête, on se sent bien avec les autres. Et donc, on crée du lien. Et voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a de finalement plus inclusif que le sport ? Je ne sais pas. Donc, voilà ce que je peux dire. Et le sport, effectivement, après, il peut se décliner partout, à l'école, bien sûr. Et je pense que c'est très important d'éduquer les enfants dès le plus jeune âge à la pratique sportive pour tous les bienfaits que j'ai développés. Il peut aussi se pratiquer en entreprise. Nous on propose des solutions de sport en entreprise et quelque part je pense que tout le monde irait un peu mieux et la société aussi si on faisait beaucoup plus de sport, quoi. Voilà ce que je peux dire.
Qu'est-ce que tu as comme retour des entreprises dans lesquelles tes machines sont installées ? Est-ce qu'on te rapporte que ça a changé, l'ambiance ? Est-ce que tu as des retours là-dessus ou pas encore ?
Ouais, alors on n'en a pas encore tant que ça parce que nous, on a commencé à commercialiser en 2021, donc c'est encore tout frais. Par contre, nous, on a un enjeu parce qu'on dit, on veut avoir de l'impact en proposant nos expériences sportives. Ok, on le dit, mais est-ce que c'est vrai ? Justement, on essaye vraiment pour pas bullshiter, quoi, de mettre en place des systèmes de mesure de l'impact de notre action de sensibilisation. Pour vérifier que ce qu'on dit, c'est vrai, quoi. Voilà, on ne veut pas se voiler la face. Et donc là, on travaille avec une structure qui s'appelle Impact Track qui propose justement des systèmes, des méthodes pour mesurer l'impact de toute action de sensibilisation. Ça va pour nous, mais ça va pour d'autres acteurs qui sont sur ces sujets. Mais en tout cas, nous, oui, les premiers retours qu'on a, c'est ça fait du team building. On peut créer des challenges énergétiques par équipe, donc ça crée du lien. Enfin, voilà, les premiers retours qu'on a sont évidemment positifs. Et puis moi, je voulais revenir sur l'école, etc. Moi aussi, je suis membre de 100 000 entrepreneurs. Et moi aussi, j'adore intervenir, raconter voilà, ce qu'on fait et expliquer un peu tout le parcours, tout ce qu'on veut faire. Nous, notre produit, notre expérience qu'on propose, ça a évidemment des vertus pédagogiques. Et donc, on adorerait même le faire plus, intervenir dans les établissements d'enseignement, de la petite école jusqu'aux grandes écoles, universités, pour justement éduquer à la pratique sportive, sensibiliser aux enjeux de transition énergétique par l'expérience, éventuellement aussi expliquer le parcours de Cyclopower Factory, le parcours entrepreneurial qu'on a pu avoir, et aussi finalement faire d'une pierre plusieurs coups, sensibilisation éco-gestes, sensibilisation à l'entrepreneuriat, même donner des modules pédagogiques pour les profs, pour qu'après eux ils puissent relayer notre discours, des modules pédagogiques même sur la techno. Nous, on a un produit qui est assez tech, on a un brevet, on a des cartes électroniques. Et nous, on aime bien aller dans ces établissements parce que justement, on peut adresser plein de sujets assez variés. Quoi. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais...
Écoute, ça répond totalement à la question et ça me refait le lien avec Véronique qui lève la main. Donc, vas-y, Véronique.
Non, mais c'est super parce que voilà, je pense qu'on est tous hyper connectés. Et moi aussi, je suis à 100 000 entrepreneurs. Donc, vous voyez, on est tous dans la même famille. Et on parlait tout à l'heure justement des jeunes. Et c'est vrai qu'on n'a pas le temps de tout raconter. Mais c'est vrai que moi, je passe par les enfants en leur disant « Tu vas apprendre des choses à tes parents. » Et en fait, vous ne pouvez pas imaginer. Quand je dis ça, j'ai toutes les petites oreilles qui sont comme ça et qui me regardent. Et là, ils sont trop fiers. Et en fait, c'est vrai que ce que je fais, c'est que je leur fais comprendre. Je prends un exemple tout simple. Par exemple, on va parler des enfants, parce que j'aime beaucoup intervenir dans les écoles primaires. Et les maîtresses me disent, vous avez changé complètement les goûters des enfants. Parce que j'interviens beaucoup sur l'alimentation et la santé, et sur le sport aussi, parce que je fais aussi des défis avec le sport, notamment des petits relais avec de l'eau, et montrer à quel point l'eau est importante. Il ne faut pas perdre une goutte, et il faut faire plein d'exercices, en faire tomber une goutte d'eau. Vous verrez à quel point les enfants sont avec leurs petites gouttes d'eau et je leur montre vraiment l'intérêt de l'eau. Donc, et à chaque fois, on fait justement des exercices et à la fin, en gros, c'est apprendre à votre maman de vous préparer un goûter autre que ces petits sachets dans ces petits sachets avec tout ce plastique et tous ces déchets qu'on va mettre à la poubelle après. Et donc, les enfants sont tout fiers parce que les maîtresses me disent « Mais vous avez complètement changé. » Quand les enfants sortent le cartable après le passage d'I Love Planet, les enfants mangent équilibré. Donc, les enfants sont heureux et la planète est heureuse. Et en fait, le truc qu'on dit toujours, c'est bon pour toi, c'est bon pour la planète. Et en fait, ce qu'on revient un petit peu à la santé, c'est que nous, on fait, comme on est dans le côté positif, on va toujours parler de c'est bon pour toi, bien-être, santé. Et on va surtout dire, tu vas faire des économies d'énergie, tu vas faire des économies parce que tu vas arrêter le gaspillage alimentaire, etc. Et c'est par cette communication positive que les gens nous écoutent, en fait. Avant de commencer à dire, il y a un problème, c'est tu vas voir, je vais te donner une solution, tu vas voir, c'est super bon pour toi. Et je pense que ça rejoint un petit peu le sport. Et c'est vrai qu'on fait énormément de défis sportifs avec différents âges, différentes générations. Et souvent, justement, pour les relais, on prend des papis, des mamies, parce que c'est hyper important qu'en voyant cette génération, qu'il n'y ait plus justement ce clivage de dire « Ouais, mais cette génération, derrière leur téléphone, derrière leur ordinateur, c'est geek, etc. » Donc, on casse un petit peu ça en les amenant en plein air et en créant justement des défis et des relais avec différentes générations.
Merci beaucoup Véronique, merci à chacun d'entre vous. J'ai plusieurs questions et remarques, donc on va passer à ce que nos spectateurs ont mis. Alors tout d'abord, pour Hector, le collector, est-ce que travailler avec des tiers-lieux alimentaires comme VRAC, est-ce que c'est quelque chose qui a été envisagé?
Oui. on travaille effectivement avec des tiers-lieux, on travaille avec des espaces de coworking, on travaille avec des épiceries VRAC. Donc, si j'ai bien compris la question, je pense que oui, on sait faire, on peut faire et on a plaisir à accompagner ce genre de projet. Donc, oui.
Super, génial.
C'est de penser et expérimenter, du coup, voilà, pour bien répondre.
Ok, parfait. Cyclopower Factory, accueillir des stagiaires ou salariés en insertion serait une manière de faire aussi de la diversité. Est-ce que tu y as déjà pensé?
Oui, Oui, bien sûr. C'est même, on a envie de le faire. Après, là, alors, nous, on a fait qu'un recrutement et demi, donc un qu'on a fait pour un poste d'ingénieur hardware, voilà, donc assez qualifié. Et là, on a un recrutement en cours pour développeur React Native, voilà, pour notre appli. Voilà. Et pour les stagiaires, on a deux apprentis. Aujourd'hui, un qui est plutôt sur la partie BizDev et un sur la partie marketing. Une sur la partie marketing.
Ok, super. Partie marketing.
Voilà. Et okay. Du coup, alors, je me trompe peut-être, mais dans mon esprit, l'insertion par l'activité économique, c'est des postes un peu moins qualifiés. Voilà. Donc on va monter une équipe de maintenance de nos équipements. Enfin. Voilà, on va avoir des postes à l'avenir, on espère, si on continue à se développer, qui seront à mon avis plus adaptés pour ce type de profil, quoi, je pense.
Ok. Alors, on a plein de commentaires de Virginie, essentiellement, hein, qui dit, donc, pour Allo Planet, donc, elle dit Allo Planet, je pense que Véronique a dit le mot juste, rendre les choses simples. Point commun avec le discours de Karine. Elle précise que sur le Muretin, donc c'est vers Muret, donc au sud de Toulouse, nous avons monté un collectif ESS qui s'appelle Co-Main, Main M-A-I-N-S. Elle précise ensuite que la première notion, c'est de penser que l'employabilité n'est pas individuelle mais collective. L'entreprise pense l'individu comme investissement et non pas comme un coût, car elle est apprenante à double sens. Orientation, Hector, avec l'association 3PA, l'école de la transition écologique, est-ce que tu les connais? Est-ce que ce sont des gens avec qui tu as pris contact déjà?
Non, je suis honnête, donc du coup, merci ouais. pour le partage et avec plaisir pour voir effectivement avec eux
ouais,
les synergies qu'on peut trouver. Ouais.
Oui, là, il y a de belles synergies 3PA, tu le connais aussi, on pourra te mettre en contact si tu veux, c'est une belle idée d'aller vers eux. Virginie nous dit, dans les dispositifs publics, il existe souvent beaucoup d'aide pour la création, mais quasiment rien pour l'aide au développement. C'est totalement vrai. Alors, il est parfois difficile pour certains de passer le cap de la TPE à la PME. Du coup, certains préfèrent rester petits. Vos organisations aident-elles au développement? Car qui dit développement dit plus d'emplois et surtout plus de transmission dans cette capacité à réussir ensemble. Question ouverte. Qui répond à ça? Fabienne, je te sens bien.
Oui, l'intérêt, justement, c'est d'avoir... Nous, on a monté au MEDEF avec les déterminés, c'est d'avoir des mentors, qui sont des chefs d'entreprise, hommes, femmes, qui viennent aider ceux qui sont en phase de création ou qui ont créé pour justement développer le business. L'intérêt, c'est ça aussi, hein, c'est que chacun s'intéresse à l'autre et aussi développer le business. Madani va pouvoir en parler puisqu'il est en train de travailler avec certains où il va pouvoir développer son business. Je te laisse la parole.
Complètement d'accord. Ouais. C'est vrai que je suis en plein dans le sujet en ce moment. Fabienne, je pense que tu es très bien placée pour le savoir. Mais je vais reprendre. Est-ce qu'il y avait une question orientée quand même ou pas? Parce que moi, je ne vois pas de questions sur ce que tu viens de dire, Claire.
Vos organisations aident-elles au développement? C'était ça la question. C'est-à-dire qu'il y a plein de dispositifs qui aident à la création.
C'est ça.
Mais c'est le pas d'après, en fait, qui est important.
C'est donc, exactement
si tu as quelque
ça,
chose
en fait,
à dire dessus, vas-y. Après,
je pense qu'on a bien abordé le sujet tout à l'heure et j'ai bien détaillé exactement ce qui existait. Après, c'est vrai que, et heureusement d'ailleurs qu'on n'est pas les seuls à exister sur ce terrain-là et qu'il y a beaucoup de structures d'accompagnement qui peuvent permettre justement ce rebond dont on parle. Alors, il en existe. Après, évidemment, bien sûr, il faut qu'il y en ait encore plus et jusqu'à arriver au point où il ne devra plus en exister parce qu'il n'y aura plus de problème. Donc, l'objectif, en fait, c'est de ne plus exister finalement. Pour aider à accompagner, parce que l'idée, c'est justement de pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir réussir sans avoir besoin d'aide quelque part. Donc, ouais, je rejoins complètement ce qui a été dit. Ouais.
Merci, Madani. Quentin, tu voulais compléter cette réponse? Ton micro est coupé.
On a profité effectivement de plusieurs, en tout cas sur l'Occitanie et Toulouse, il y a eu plusieurs parcours d'aide à la création. Mais effectivement, c'est une fois qu'on est passé par cette étape, des fois, c'est vrai que l'étape de développement, l'étape d'après, on trouve un peu moins d'accompagnement. C'est plus centré sur les premières étapes de la création d'entreprise, définir le business plan, trouver ses premiers clients. Mais voilà, mais là, nous aussi, ça me parle beaucoup parce qu'on est dans une phase avec Hector où on a fait la première partie. Et là, on aimerait passer à l'étape d'après, monter un peu d'échelle, continuer à grandir. Et c'est vrai que là, on se trouve un peu plus livré à nous-mêmes. Ça fait partie de l'exercice, je pense. Mais en tout cas, je rejoins le point qui est de dire peut-être que ça pourrait, certains accompagnements pourraient se spécifier sur cette partie-là.
Merci beaucoup, Karine. Vas-y, je t'en prie.
Oui, alors moi, je pensais au lobby, en fait, institutionnel. Je me disais, il y a des points de jonction quand même forts sur le développement. Et territorialement parlant, on peut se mettre autour d'une table écrire, rédiger des appels d'offres, des appels à projets pour aller solliciter justement, c'est toute la question des strates en fait, hein, c'est qu'il y a des représentants, ben là on a le MEDEF, mais qui peut aller aussi négocier à plus haute échelle des projets territoriaux, plus alternatifs, mais qui ont cette force quand même et cette possibilité d'aller, voilà, d'aller travailler le développement. Et moi, ça se voit, c'est toujours été, hein, c'est pas nouveau, mais là, c'est de plus en plus actif. Et je pense que justement, ces maillages-là, ils sont intéressants parce qu'on pense, c'est souvent d'un endroit ou un autre, mais il y a des points de jonction fort où l'ESS peut être inspirant pour des structures un peu plus conséquentes et vice-versa. Donc moi, je prône le fait qu'on se mette autour d'une table et qu'on, toutes parties confondues ou parties prenantes intéressées, et qu'on réfléchisse sur le comment on permet de travailler le développement durable. Mais moi, j'ai l'impression que ce monde, il existe déjà. Donc à chaque fois que j'ai... voilà, il existe, mais il faut qu'il soit un peu plus visible. Voilà, on va passer de l'invisible au visible.
Peut-être plus visible et peut-être plus, comment dire, peut-être mieux identifié, en fait, quelque part aussi, en fonction des secteurs dans lesquels on est. Fabienne, vas-y, je te laisse la parole. Merci, Karine. Ouais.
Je te rejoins, Claire, sur le fait que ça soit lisible. Je veux dire, on voit French Impact, où on peut aller déposer des projets pour récupérer un peu d'argent, pour solidifier un peu son démarrage d'activité. Mais qui le sait, ça ? Si personne n'amène l'info. Ça, c'est une réalité. Hein. Quand on est en phase de création, on va voir le banquier, il vous dit, bon, qui vous porte caution pour vous ? Bon, hein, déjà. Et si on est une femme, en plus, souvent, on vous pose la question idiote, c'est, est-ce que votre mari se porte pour caution ? Donc, on a bien encore des choses qui sont un peu enfermantes, si je peux m'exprimer ainsi. Je pense que, et nous, justement, au MEDEF, on agite un peu ça, parce que comment on peut soutenir des gens qui ont créé une boîte et continuer à ce qu'on appelle les tours de table, hein, financiers, hein, c'est tout simplement. Et nous, on a, au sein du MEDEF Haute-Garonne, on a un groupe de jeunes qui ont moins de 40 ans, les JE, qui ont monté un COMEX des moins de 40 à Toulouse, hein, et ils viennent de lancer un challenge en disant, bah, nous, on a créé une entreprise, et ben, est-ce qu'on pourrait aider ceux qui ont créé et qui ont 2 ans de création ? Et ils vont mentorer. Mentorer, ça veut dire ben, comment je vais t'aider à trouver d'autres clients ou à solidifier ta trésorerie ou à essayer de chercher des sous à droite, à gauche. Je crois que c'est ça l'intérêt, c'est justement de se regrouper à des moments pour pouvoir être pas tout seul face à l'adversité. Parce que créateur d'entreprise, quand on n'a pas d'argent, hein, qu'on a les poches vides, mais qu'on a une super idée, avant que ça rapporte, on y met 5 ans, quoi. Donc, comment on arrive à rester au-delà des 5 ans sans se payer encore, etc., etc. Parce que ça, c'est un peu la réalité du quotidien, quand même. Donc, et je pense que c'est là où il faut que nous, qui sommes dans nos réseaux respectifs, on apporte cette solution, cette lisibilité, ce contact, et qu'on soit facilitateur. Et c'est là où on voit que les gens, ils ont changé de mentalité, parce qu'on ne garde plus l'info pour nous. Maintenant, on la partage. Et c'est ça qui fait la richesse.
Tout à fait. Et ça, c'est chouette que tu le soulignes aussi, en t'écoutant forcément, je pense au CJD, hein, le Centre des jeunes dirigeants, où on est aussi dans cette logique d'accompagnement de pair à pair, et où justement, voilà, on s'accompagne pour faire grandir nos boîtes dans le respect de l'humain, tant qu'à faire, c'est chouette aussi. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui existent, mais il faut savoir que ça existe. Madani, tu voulais ajouter quelque chose ?
Ouais, je voulais juste apporter en fait ma petite contribution à ce que vient de dire Fabienne. Parce que pour le coup, moi, j'ai été complètement confronté au problème. C'est-à-dire que quand j'ai eu l'idée de créer mon entreprise, j'avais que l'idée et j'avais pas la structure. Donc, j'ai été accompagné jusqu'à la création d'entreprise. Après, j'ai accédé justement à un financement par la BPI parce que j'avais été justement orienté vers là. J'ai postulé à ce qu'on appelle le programme French Tech Tremplin parce que je correspondais à la petite case qui faisait que je pouvais en bénéficier. Mais encore faut-il connaître justement ce dispositif qui puisse me permettre d'avoir les 40 000 euros qui me permettent justement d'accéder à de pouvoir en tout cas accélérer ma solution. Juste après ça, je suis rentré dans un écosystème qui m'a permis aussi de connaître encore d'autres processus pour encore plus accélérer et encore aller plus loin, mais sans être confronté directement en fait au problème et sans être directement en fait impliqué dans l'écosystème, je ne connaissais pas tout ça. Et c'est vrai que je rejoins exactement ce qui vient d'être dit et par Fabienne, et je crois que Karine l'a très bien dit aussi tout à l'heure, c'est que ça manque beaucoup de visibilité. Aujourd'hui, moi, c'est parce que j'étais dans l'écosystème et parce que je le suis aujourd'hui que je connais toutes ces aides et ce tremplin, en fait, quelque part, que j'ai pu en bénéficier et que j'en bénéficie encore aujourd'hui. Mais sans ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en fait, qui sont dans les mêmes besoins que j'ai été confronté, moi, il y a encore 2 ans en arrière, et qui ne connaissent absolument pas ces dispositifs qui peuvent justement leur permettre d'ouvrir leurs portes, d'ouvrir beaucoup de portes. Donc, je rejoins l'idée de Karine qui disait justement que ça serait bien de pouvoir se réunir autour d'une table et de pouvoir discuter de tout ça et d'essayer de mettre en lumière tout ce qui existe, parce que c'est clairement aujourd'hui un réel besoin et on va pouvoir répondre à une réelle problématique.
Merci beaucoup, Madani. Dernière remarque de Virginie. Pour mieux comprendre les jeunes, voir la dernière enquête de Marc Lazare et Olivier Galland, une jeunesse plurielle, enquête auprès des 18-24 ans, rapport 2022 de l'Institut Montaigne. Et ça rejoint, toututes ces logiques de jeunesse, d'entrepreneuriat, etc. On s'est déjà penché sur la création d'un collectif jeunesse et entrepreneuriat. Et effectivement, en s'écoutant, il serait important d'arriver aussi à intégrer tous les dispositifs qui vont permettre aux personnes de pouvoir trouver leur place par rapport à tout ceci. Pas d'autres questions? Ah, si, une dernière question qui vient d'apparaître que je n'avais pas vue. Où est-elle passée? Souvent, les seuls relais des TPE, c'est les comptables, et autant dire qu'ils sont rarement dans ces réseaux. Oui et non, ça dépend. Il y a des comptables engagés aussi. On ne va pas tous les jeter quand même, on va en garder quelques-uns. Merci en tout cas, Virginie, pour toute ta collaboration et toutes les questions que tu as soulevées ce soir et les remarques pertinentes. Merci à chacun d'entre vous d'avoir été présent. Je suis ravie d'avoir pu faire ces états généraux de l'investissement social avec vous. Merci Véronique pour ta passion, ce que tu mets avec I Love Planet. Merci à Samuel pour son témoignage, ainsi Karine pour toutes tes casquettes qui te mènent sur un même objectif, c'est-à-dire le bien commun. Merci Madani pour ton enthousiasme et ton expérience terrain. Merci Quentin pour la touche émotion que tu nous as apportée avec Hector et pour les belles choses que tu fais et auxquelles tu acculture les populations. Merci Fabrice, tu as vraiment compris que l'Occitanie voulait que tu viennes t'installer. En tout cas, on a tous hâte de pouvoir découvrir ce que tu fais avec ou sans Maxime Médard. Écoute, si c'est que toi, ça nous va très très bien. Et merci à nos trois fabuleuses partenaires, Fabienne, Clotilde et Cécile, d'avoir porté cet événement avec nous. C'était une vraie joie de partager ce moment ensemble. C'est très riche de voir tout ce qui existe. Et là, vous avez, mais je ne sais même pas, 0,001% des belles initiatives qui existent en Occitanie. Je ne parle même pas au niveau de la France. Donc, si vous avez été inspiré, si vous avez été touché, surtout vraiment, contactez toutes ces fabuleuses personnes. Vous trouverez sous la vidéo du replay en fait les liens du site internet de chaque structure qui a été présentée. C'est grâce à des personnes comme vous qu'on construit un beau monde de demain pour les enfants, pour les vieux aussi que nous serons demain, et que pourquoi pas un jour peut-être des compteurs d'escargots professionnels ou des réveilleurs de mammouths, je ne sais pas, mais en tout cas ce qui ressort de cette table ronde ce soir, c'est votre cœur, le fait que vous êtes vraiment aligné avec ce que vous faites, que vous y croyez et que chacun vous contribuez à plus de joie, plus de respect de l'humain, et en cela, un immense merci à vous.
Merci à toi, Claire, pour ton dynamisme et puis la façon dont tu arrives à animer tout ça, ton énergie ultra positive. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir. À très bientôt. Au revoir.
Merci beaucoup, Claire. Merci.
Au revoir, à bientôt.
À bientôt. Au revoir.